Vous allez entendre un message de William Branham, prêché le 19 novembre 1961 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « La force parfaite par la faiblesse parfaite ».
Use this Holy Ghost. I said, and become a stuffed shirt. See? If you notice in the Bible, it's always those you are trying to get away from it that God uses.
Amen.
As long as a man wants to do something and thinks he's got enough ability he can put the job over, God could never use that man.
Amen.
Look at Moses running. Look at Paul running and the rest of them trying to get away from it. I said, don't seek nothing. God's got anything for you, He'll give it to you. See? Just let him take care of that. I said, then you get some of these times like we have today, if everybody's wanting to do this and do that and become some great person, look what we got into with it, you see.
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis, vous entendrez la traduction française de ce message.
We are, notice that it takes the weakest and the rejected, and practically every hero God ever had on the front line was that type of person. A person that was rejected, a person that thought he was insufficient, a person that had no ability at all, then that person's just in good shape so God can start using them. That's right. When they feel like that they can't, they haven't got nothing, that's when God can take a hold of them and do something with them. See? But when we are thinking that we're able to do it, then God can't use us because we're wanting to do it ourselves. And then the other side, we get these feelings and we think then that we're insufficient and we don't want to do it. But then if we just listen to the call of God, that's the very thing that God wants us to get into, that kind of a shape. So He can. When we are insufficient in ourselves, then we are subjects to yield to God's Spirit. As long as we think that we can do it, then we can't do it. But when we get to a place where we know we can't do it, then we yield ourselves to God and He does it. So then if it's us trying to do it, we'll fail. But if we just yield ourselves to God, then God can't fail. There's only one thing that God cannot do, and that's fail. He can do anything else but fail. But He cannot fail. So as long as we're trying in ourselves and depending on our own abilities and so forth, well, we'll do nothing. But when we get to a place where we know we're nothing, then God can use us. The important thing, one of the important things that we must master, now remember this, and especially you young preachers, and lay members like, there's one thing that we've got to master if we expect to fulfill God's desire in our life. That is, we have to master the thought of human ability.
Amen.
If we ever get to a spot where we think that we can do it with our own...
Bonjour, chers amis. C'est gentil d'être encore sorti par ce matin pluvieux, neigeux et maussade. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu pas mal de difficultés à rouler venant de loin. Et nous avons ces chers amis qui viennent de Chicago, de l'Alabama, de Georgie, du Tennessee, de l'Illinois et de tout autour en séjour. Ainsi, nous avons confiance que Dieu vous donnera sa protection tandis que vous voyagez. Et c'est notre prière qu'il vous protège le long des routes, sur ces routes hasardeuses qui deviennent glissantes en hiver. Cette région est mauvaise en hiver. C'est la plus belle des régions, au printemps ou en automne, mais en hiver et en été, c'est très mauvais. Maintenant, je suppose qu'il n'enregistre pas encore. J'aimerais juste dire quelque chose au sujet du message de dimanche dernier. La raison pour laquelle j'ai retenu la bande elle n'ait pas voulu les laisser voir la bande, la sortir, eh bien, c'était que je dois d'abord la regarder. Parce que souvent, comme ça, je dirais des choses dans l'église ici que je ne voudrais pas mettre devant le reste du public telles quelles. Parce que parfois, cela produit des pierres d'achoppement. Et quelquefois même, cela suscite des questions parmi nos gens ici au tabernacle. Je ne dis pas ceci, ces choses pour être différents. Mais parfois, sous l'onction, vous connaissez des choses qu'il faudrait mieux ne pas dire aux gens. Donc parfois, sous l'onction, quelque chose va s'échapper, voyez-vous, et vous ne le remarquez pas. Et l'une des choses qui, je crois, a été dite dimanche dernier, et qui pourrait faire que quelqu'un... C'est lorsque j'ai mentionné que je n'avais jamais cru dans les appels à l'autel. Voyez, je veux dire cela clairement, afin que vous compreniez. Il n'y a jamais eu d'appel à l'autel de fait dans toute la Bible. Il n'y a rien de tel dans l'Écriture. Nulle part, à travers les âges, cela n'a été fait jusqu'à l'âge méthodiste, il y a environ 200 ans. Les appels à l'autel, c'est lorsque quelqu'un se lève et essaie de persuader, de tirer les gens. « Allez, viens, Jean. Tu sais, ta mère est morte en priant pour toi. Allez, viens, Jean. » Ce n'est pas par conviction, mes amis, non. Cette sorte-là, très rarement, vous entendez parler de quelqu'un qui soit jamais allé bien loin comme cela. Et de cette manière, vous attrapez tout. C'est la raison pour laquelle l'Église est tout embrouillée comme elle l'est aujourd'hui. C'est à cause de choses comme cela. Conviction, vous n'avez rien à dire, frère. Dieu est là et a déjà fait le travail. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui entendaient la parole. Voyez, voyez, il n'y a pas d'appel à l'autel. Voyez, rien de tel. L'autel est un endroit, est l'endroit pour la prière, où chaque personne qui arrive à l'église devrait d'abord aller, s'agenouiller à l'autel, prier Dieu en silence et offrir leurs requêtes, et pour leurs bien-aimés, et remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. Puis retourner à leur siège. Et alors l'église est l'endroit où la parole de Dieu et le jugement commence par la maison de Dieu, où le jugement de la parole sort. Alors, mais aujourd'hui, nous avons tellement changé cela. Maintenant, je n'ai rien contre quelqu'un qui fait des appels à l'autel, voyez. Et j'en ai fait beaucoup moi-même, et j'en ferai probablement beaucoup plus si je continue à aller de l'avant. Mais en ce qui me concerne, voyez, vous en ramassez trop. Et je n'ai rien contre cela, il n'y a rien de mal à cela. Ainsi, très bien, voyez, parce que, écoutez, Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement, et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. » C'est vrai. Donc, voyez, cela rejette votre appel à l'autel complètement, entièrement. Voyez, voyez-vous cela? Tout ce que le Père, notre responsabilité est de prêcher la parole. La Bible dit, « Tous ceux qui crurent furent baptisés. » Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission, le pardon des péchés. Quoi? Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Voyez, et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais quand vous persuadez les gens, les tirez, les effrayez, et quand vous les amenez avec force parole, les gens doivent venir sainement, sobrement, sous une pleine conviction, et recevoir Christ. Alors la première chose qu'ils font dès qu'ils ont reçu Christ, étant assis sur leur chaise, la chose suivante est d'être baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, dont ils ont été convaincus que c'était une mauvaise chose. C'est comme cela que leurs péchés leur sont remis, parce qu'ils se sont repentis, ont été baptisés comme témoignage pour les gens que j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel. Alors vous êtes un candidat pour le Saint-Esprit. Et maintenant, beaucoup de gens continuent, usant de persuasion et appelant à l'autel, et ainsi de suite. Ce qui est bien, je serai d'accord avec cela. C'est parfaitement bien aussi loin que cela me concerne. Quiconque veut faire cela. Mais pour moi, ce n'est pas scripturaire, voyez-vous. Et ainsi, j'aime simplement m'en tenir à l'Écriture.
Amen.
Donc, la raison pour laquelle j'ai retenu cette bande, c'était parce que si vous la faisiez sortir, nous aurions à répondre à 500 lettres en une semaine. Chaque marchait seulement sur une petite tradition que quelqu'un a apportée. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour que ça se passe de nouveau ainsi. Et je pense très souvent que je suis un peu trop critique sur différentes choses comme cela. Et je ne veux pas être comme cela, mais parfois les fonctions vous tirent de ce côté, voyez-vous. Elles vous font pencher de ce côté. Et ainsi je suis sûr que les gens comprennent cela. Maintenant, nous sommes très reconnaissants d'avoir toujours un gentil Père Céleste qui regarde par-dessus nos fautes et ne nous en tient pas compte. J'étais en train de relire dans le livre des Romains, le 4e chapitre, où Paul a écrit le commentaire divin de la vie d'Abraham. Maintenant, nous savons qu'Abraham se sentit souvent un peu contrarié, comme cela nous arrive. Mais quand son commentaire fut écrit, aucun de ces moments de contrariété ne fut mentionné. Voyez-vous, il n'en fut pas fait mention du tout. Il est dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Et j'espère que le mien sera rédigé de cette manière là-haut. Pas mes erreurs et tout cela, mais simplement ce que j'ai essayé de faire, l'intention de mon cœur pour le peuple de Dieu.
Amen.
Et maintenant, nous sommes venus ce matin pour essayer d'apporter un petit message ici que peut-être le Seigneur a mis sur nous pour le donner aux gens. Et j'espère que cela vous fera du bien, ainsi qu'à moi, car nous sommes ensemble à vivre en un temps formidable, dans les derniers jours. Ainsi, juste avant que nous ayons la prière, j'aimerais lire à deux endroits dans la parole, un avant la prière et un après la prière. Premièrement, pour ouvrir notre service avec cette partie de cela, je désire lire dans le livre des Hébreux, le 11e chapitre des Hébreux, et le 32e verset pour commencer. Il est question de la foi. Et que dirais-je davantage, car le temps me manquera si je discours de Gédéon, de Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et des prophètes, qui par la foi subjuguèrent des royaumes, accomplirent la justice, obtinrent les choses promises, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles furent rendus vigoureux, devint fort dans la bataille, firent ployer les armées des étrangers. Les femmes reçurent leur mort par la résurrection, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvées par des moqueries et par des coups, et encore par des liens et par la prison. Ils furent lapidés, sciés, tontés, moururent égorgés par l'épée, errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dans le besoin, maltraités. Remarquez cette parenthèse. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes. Errant dans les déserts, et les montagnes, et les cavernes, et les trous de la terre. Tous ceux-ci, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis de Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Quand je lis l'histoire de ces vaillants soldats, je me demande ce que sera notre petit témoignage à côté de celui de ces gens ce jour-là. Juste avant la prière, est-ce que quelqu'un aimerait être rappelé au souvenir de Dieu? Levez simplement votre main, et quoi que ce soit dont vous ayez besoin, puisse-t-il le voir, l'entendre, et vous l'accorder maintenant alors que nous inclinons nos têtes. Notre Père, plein d'amour et de miséricorde, nous nous approchons humblement de ton trône ce matin, dans le nom de Jésus, ton Fils, pour offrir la prière pour nous-mêmes et pour les autres. Que tu veuilles, premièrement, Seigneur, nous pardonner toutes nos offenses et notre iniquité. Et alors nous prierons pour les autres, Seigneur, afin qu'eux aussi soient pardonnés, et que ton Église soit tirée plus près de toi. Car vraiment, Seigneur, dans nos cœurs, nous croyons que tu es prêt à faire une œuvre avec ton Église, prêt à la sortir du monde et à la transporter dans le royaume de Dieu. Mais Seigneur, aide-nous à nous préparer nous-mêmes pour cette heure. Que ce matin soit le moment, Seigneur, où chacun d'entre nous rejettera tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance la course qui est devant nous. Et je prie, Père Céleste, aujourd'hui, que tu guérisses les malades et les affligés. Beaucoup souffrent à travers le pays, et des plaies et des virus, comme les docteurs les appellent. Je demande que tes vertus guérissantes, Seigneur, soient pour ces gens. Puis, pour en venir à notre petite assemblée ici ce matin, beaucoup ont conduit pendant des centaines de kilomètres, partant tard hier soir et pendant la nuit et jusqu'à ce matin, aujourd'hui, et roulant dur pour arriver jusqu'au tabernacle, et il neige sur la route. Ô Dieu, nous te prions de les bénir spécialement. Il est certain que beaucoup ont dû abandonner une part importante de leur nourriture de la semaine qui vient, ou des choses pour lesquelles ils auraient pu dépenser leur argent pour de l'essence et des choses pour venir. Ô Dieu, celui qui vient à toi, avide, repartira rempli.
Amen.
Tu l'as promis. Et je demande que tu remplisses tellement leur cœur et les paniers de leur âme des bonnes choses de Dieu, qu'ils partent en débordant absolument de joie ineffable et glorieuse.
Amen.
Que les coupes de ces précieuses personnes débordent des bonnes choses spirituelles de Dieu. Bénis chaque main. Tu connais le besoin qui était derrière cette main, Seigneur. Je demande que tu les bénisses spécialement. Nous t'avons vu dans les semaines passées comment tu as si miraculeusement répondu à la prière en peu de temps, dans des cas d'urgence, de maladie et de troubles. Tu es Dieu omniprésent qui se tient près de ses serviteurs. Je te prie, ô Dieu, de bien vouloir te tenir auprès de ceux-ci ce matin. Donne-leur, Seigneur, le désir de leur cœur. Je ne crois pas que c'était pour quelque chose d'égoïste, quelque mauvais motif là derrière. Je demande que tu les bénisses.
Amen.
Et maintenant, Père, souviens-toi de moi aujourd'hui.
Amen.
Et que je sois capable de me retirer tellement du chemin. Chacun de nous, depuis le pasteur jusqu'aux enfants, puissions-nous être capables de nous mettre nous-mêmes de côté sur l'autel de Dieu, ouvrir nos cœurs et écouter le Saint-Esprit alors qu'il nous parlera. Tourne nos vases pour recevoir tes bénédictions avec le bon côté vers le haut, puis déverse la puissance de l'huile d'onction en eux. Et donne-nous de la force, Seigneur, nous en avons besoin pour les jours qui sont devant nous. Accorde cette bénédiction, nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Je ne sais pas, prenez simplement son numéro de téléphone et dites-lui que je le rappellerai après la réunion. Je ne sais pas. Priez pour moi. Frère Jack Moore au téléphone, et il essaye encore de me persuader d'être là-bas cette semaine. Voyez, je ne sens simplement pas que cela soit juste, voyez-vous, et ainsi, je ne sais pas quoi faire. J'aime frère Jack, et cette grande convention qui arrive là-bas, il a refusé des hommes comme Booth Clibborn et d'autres. Ainsi, il tient toujours bon, il a fait passer ses annonces et ainsi de suite. Il tient à ce que je vienne. Ainsi, j'aime me sentir vraiment obligé d'aller, voyez-vous. Et maintenant, nous prenons encore 2 Corinthiens. Nous commencerons avec le 12e verset de 2 Corinthiens, et nous lirons un seul verset de l'Écriture comme texte, si Dieu le veut ainsi. 2 Corinthiens plutôt, le 12e chapitre et le 9e verset. Je veux lire le premier membre de phrase, ou le second membre de phrase, du 9e verset, une partie. Elle m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Laissez-moi le lire de nouveau, afin que vous soyez certains d'avoir le texte. Elle m'a dit, c'est Dieu qui parle à Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Amen.
Alors, si je pouvais l'appeler un texte, j'aimerais utiliser ceci, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Si nous avons de la faiblesse, nous avons de la force.
Amen.
C'est un texte inhabituel dans une assemblée de Pentecôte. Prendre un texte sur la faiblesse, parce que nous sommes toujours en train de témoigner que nous sommes tellement forts. Et j'ai déjà dit que j'essaye seulement de prier pendant la semaine et de trouver ce qu'il serait bon que j'apporte devant l'Assemblée. S'il s'agissait seulement de venir ici pour être écouté, je préférerais de beaucoup entendre quelqu'un d'autre ce matin qui se tienne ici. Franchement, jusqu'à il y a 2 jours, j'étais descendu au Kentucky avec les gens de frère Gabehart. Lorsque j'ai quitté cet endroit, ce précieux frère et sa femme, et sa famille et tous, cette pensée me frappa. J'étais allé dans une maison juste un peu de temps avant cela. Je me tenais à l'extérieur, et la dame dit, « J'aimerais parler à ce pasteur-là. » Et j'entrais dans leur petite maison, et il y avait... Elle dit, « Vous êtes frère Branham ?» Et je dis, « Oui, madame. » Elle dit, « Je suis tellement honteuse de l'aspect de ma maison. » Elle dit, « Et de vous demander d'entrer. » Elle commence à pleurer. Elle dit, « Mais j'ai un tel besoin, et j'ai vraiment confiance en vous. » Et j'ai découvert que c'était là où notre petite sœur Cox, chez qui nous sommes restés là-bas, une petite grand-mère, avec un magnétophone qui va dans le voisinage faire passer les bandes.
Amen.
C'est cela. Voilà l'idée. Voyez-vous? Je fis le tour de cette maison du regard, une humble petite maison, à peu près comme celle où j'avais été élevé, mais les murs remplis d'images de Christ. Il y avait une Bible sur la table. Je dis, je n'ai jamais eu plus d'honneur dans ma vie. C'est le genre de maison dans lequel j'aime entrer. Elle présenta une requête pour quelqu'un. Et 5 heures après que nous ayons prié ensemble, cette petite grand-mère et moi ayant prié ensemble, Dieu avait répondu.
Amen.
Donc nous avons encore prié. Et maman Cox et moi et eux, autour de la table ce matin-là, nous avions courbé nos têtes et demandé à Dieu de nous donner une occasion de faire quelque chose à travers les efforts qu'elle avait faits. Et en demandant cela, Dieu ouvrit un chemin. Vous voyez, il est Dieu. Nous essayons de faire de nos faiblesses des excuses. Nous voulons dire comme nous sommes grands, comme nous sommes importants. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu m'a donné ce texte. C'est pour enlever cela de notre pensée. Voyez, il y a de petites choses que nous faisons, et c'est pourquoi nous venons à l'Église, pour trouver où sont nos fautes, et les choses par lesquelles nous puissions nous améliorer. Si nous venons à l'Église avec un quelconque autre objectif que celui-ci, je crains que nous ne retirions pas beaucoup de notre venue à l'Église. Nous devons venir pour trouver nos faiblesses, trouver nos mauvais côtés, et voir combien nous sommes petits et mettre notre confiance en quelqu'un qui est fort.
Amen.
Mais quand nous avons des faiblesses, il y en a tellement parmi nous qui aiment à témoigner ou aiment à penser que nous sommes insuffisants. Et par conséquent, nous en faisons une excuse. Je n'ai pas d'instruction. Je n'ai pas de capacité. Je suis incapable de faire ceci. Et si vous soutenez cela, et que vous le faites de cette manière, que vous continuez comme cela, alors vous ne pouvez arriver à rien. Mais la chose même que nous prenons pour excuse, nos faiblesses, Dieu utilise cette chose même pour s'attaquer au travail. Voyez, il attend que nous soyons dans cette condition pour pouvoir nous utiliser. Nous prenons nos excuses et nous disons, « Eh bien, je ne peux pas faire ceci, je suis insuffisant, je ne peux pas le faire. » Et Dieu prend cette chose même pour faire le travail avec. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle il nous choisit, parce que nous sommes dans cette condition. Maintenant, cela semble étrange, mais dans quelques minutes seulement, nous arriverons à la raison de cela, si Dieu le veut. Nous découvrons, juste comme nous l'avons lu, que les faiblesses, elle est rebue, et nous découvrons que ces gens qui sont les plus faibles, et les rejetés du monde extérieur, sont les héros de Dieu, les conquérants sur le front de bataille. Il prend ceux qui se sentent eux-mêmes indignes. Il y avait un frère méthodiste, 3 d'entre eux qui viennent à cette église depuis l'Ohio, ou le nord de l'Indiana. Il me disait il n'y a pas longtemps, « Frère Branham, disait-il, nous venons juste de recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que nous devons maintenant rechercher les dons pour notre ministère ?» Je dis, « Ne le faites pas, laissez cela. » Il se tourna et me regarda en disant, « Je viens de lire le livre d'un certain frère qui nous disait qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, nous devions rechercher les dons pour que ceux-ci puissent utiliser ce Saint-Esprit. » Je dis, « Et devenir collé-monté. » Voyez, si vous remarquez dans la Bible, c'est toujours ceux qui essayent de s'éloigner de cela que Dieu utilise. Aussi longtemps qu'un homme désire faire quelque chose et pense qu'il a assez de capacité pour pouvoir faire le travail, Dieu ne peut jamais utiliser cet homme-là. Regardez Moïse courir, regardez Paul courir, et le reste d'entre eux essaie de fuir cela. Je dis, ne recherchez rien. Si Dieu a quelque chose pour vous, il vous le donnera. Voyez, laissez-le seulement s'occuper de cela. Je dis, sinon vous en arrivez à des temps comme aujourd'hui, où chacun désire faire ceci et faire cela, et devenir un grand personnage. Regardez, nous en sommes arrivés avec cela. Vous voyez, au lieu d'essayer d'être grand, nous devrions essayer de découvrir comment nous pouvons devenir petits. Voyez, alors Dieu peut nous utiliser. J'ai plusieurs versets notés ici auxquels je devrais me référer, je suppose. Mais je n'aurai probablement pas le temps de le faire. Mais nous sommes notés que cela prend les plus faibles et les rejetés. Et pratiquement chaque héros que Dieu a jamais eu sur le front était ce type de personne. Une personne qui était rejetée, une personne qui pensait qu'elle ne suffisait pas, une personne qui n'était pas capable du tout, cette personne-là est juste en bonne condition pour que Dieu puisse commencer à l'utiliser. C'est vrai. C'est quand ils se sentent incapables, comme n'ayant rien, c'est alors que Dieu peut les prendre et faire quelque chose avec eux. Voyez, mais que nous pensons que nous sommes capables de le faire, alors Dieu ne veut pas nous utiliser, parce que nous voulons le faire nous-mêmes. Puis, de l'autre côté, nous avons ces sentiments, nous pensons que nous sommes insuffisants, et nous ne désirons pas le faire. Mais alors, si nous prêtons seulement attention à l'appel de Dieu, c'est à cette chose même que Dieu veut nous amener, à cette condition, afin que lui puisse le faire. Quand nous-mêmes nous sommes insuffisants, alors nous sommes astreints à nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Aussi longtemps que nous pensons que nous pouvons le faire, alors nous ne pouvons pas le faire. Mais quand nous en arrivons au point où nous savons que nous ne pouvons pas le faire, alors nous nous soumettons nous-mêmes à Dieu, et il le fait. Ainsi, c'est nous qui essayons de le faire. Si c'est nous qui essayons de le faire, nous ne réussirons pas. Mais si nous soumettons simplement nous-mêmes à Dieu, alors Dieu ne peut pas échouer. Il n'y a qu'une chose que Dieu ne peut pas faire, et c'est échouer. Il peut faire quoi que ce soit d'autre qu'échouer, mais il ne peut pas échouer. Donc, aussi longtemps que nous essayons par nous-mêmes, et que nous comptons sur nos propres capacités, et ainsi de suite, eh bien, nous ne ferons rien. Mais quand nous en arrivons au point où nous savons que nous ne sommes rien, alors Dieu peut nous utiliser. La chose importante, une des plus importantes choses que nous devons surmonter. Maintenant, souvenez-vous de ceci, et spécialement vous, jeunes prédicateurs, de même que vous, membres laïcs. Il y a une chose que nous devons arriver à surmonter si nous comptons accomplir le désir de Dieu pour notre vie. C'est que nous devons surmonter la pensée de la capacité humaine. Si jamais nous en arrivons au point où nous pensons que nous pouvons le faire avec notre propre intelligence et nos propres capacités, nous devons surmonter cela de telle manière que nous puissions nous débarrasser de la chose et la laisser de côté pour que Dieu puisse nous utiliser. C'est vrai. Et faire une reddition totale. Nous ne pouvons utiliser une seule capacité. Nous devons faire une reddition totale. Et pour venir à Dieu, vous devez lui abandonner à la fois l'âme, le corps et l'esprit. Tout ce que vous êtes doit être abandonné à Dieu de manière qu'il puisse accomplir sa volonté en vous et en moi. Maintenant, c'est dur, je sais, parce que nous désirons toujours mettre notre grain de sel, quelque chose que nous savons que nous désirons le faire. Nous disons, eh bien, je sais tout simplement que ça devrait être fait de cette manière. Mais aussi longtemps que vous le ferez, vous le ferez de cette manière, cela sera faux. Et Dieu n'utilisera jamais cet effort. Peut-être avec l'aide de Dieu que nous allons arriver à cela dans quelques minutes. Et vous montrer justement comment Dieu ne peut pas utiliser votre capacité. Et c'est le problème avec le monde aujourd'hui. Il y a trop d'expériences de séminaires. On s'appuie trop sur l'instruction. On s'appuie trop sur les relations, les amitiés dans la dénomination. Nous nous reposons l'un sur l'autre. Nous nous reposons sur des hommes capables. La Bible disait, comment pouvez-vous avoir la foi quand vous êtes... comment va ce verset? Comment pouvez-vous avoir la foi quand vous vous élevez les uns les autres? Lorsque nous attendons quelque chose et que nous disons, ce gars c'est un grand personnage, ça c'est un grand personnage, je vais m'appuyer sur lui. Cela déplaît à Dieu quand vous faites cela. Nous devons nous appuyer sur Dieu et sur Dieu seul.
Amen.
Nous ne devons pas nous confier dans nos propres capacités, ni dans celles d'aucun homme. Nous devons entièrement nous abandonner à Dieu. Aucune capacité, peu importe à qui elle est, ne sera jamais utilisable aux yeux de Dieu. Dieu doit enlever de nous toutes nos capacités avant de pouvoir achever son dessein. S'il nous a réservé quelque chose à faire, aussi longtemps que nous avons le sentiment de faire un assez bon travail avec cela, nous ne serons jamais capables d'être utilisés par Dieu. Maintenant vous dites, vous êtes en train de faire une déclaration terriblement risquée, là, frère Branham. Et c'en est une forte, mais regardez seulement autour de vous et voyez si c'est vrai ou pas. Regardez autour de vous aujourd'hui à toutes ces glorieuses réalisations que nous pensons avoir accomplies. Et où en est le christianisme aux États-Unis? Regardez toutes nos églises et dénominations, et nos évangélistes et nos campagnes de guérison, et tout ce que nous avons eu d'autre. Et qu'est-ce que c'est? Pire que cela n'a jamais été au commencement. C'est bien pire aujourd'hui que cela n'a jamais été, parce que nous avons essayé de le faire avec les capacités humaines. Ils se rassemblent et font de longues prières et vont quelque part. Et l'autre jour, lorsqu'ils étaient si nombreux, 150 000 ou quelque chose comme cela, ils se rassemblèrent, protestants et catholiques ensemble. Ils récitèrent des prières, elles prièrent des prières, elles firent des prières, et ainsi de suite. Ils auraient tout simplement mieux fait de ne pas se rassembler. Cela ne vaut rien aux yeux de Dieu. Maintenant, si je deviens critique, pardonnez-moi, mais vous devez faire pénétrer la chose, voyez, vous devez faire que cela frappe le clou. Et quel bien cela a-t-il fait? Aucun. Et cela n'en fera jamais jusqu'à ce que toute personne qui professe être un chrétien oublie sa propre capacité et s'abandonne lui-même à Dieu. Alors Dieu peut achever son dessein en envoyant, non pas un réveil, mais frère, ce qu'il doit faire d'abord, c'est envoyer une mise à mort. C'est vrai, afin que nous puissions revivre. Vous devez mourir avant de pouvoir naître de nouveau. Et vous devez, il a besoin de notre mise à mort. Ce tabernacle a besoin d'une mise à mort. Et moi avec, nous tous, nous avons besoin d'une mise à mort. Afin que nous puissions être ramenés à la vie, dans une nouvelle vie, un nouveau soutien, un nouvel espoir, une nouvelle expérience. Nous avons d'abord besoin d'un jour de deuil. Nous avons besoin de nous abandonner à l'esprit, au lieu de nous reposer tellement sur l'instruction, sur nos programmes, sur nos campagnes, et tout ce que nous avons. Nous nous reposons sur la coopération avec un certain nombre de serviteurs de Dieu différents. Nous permettons à tel nombre, si nous ne pouvons pas être tant, eh bien nous ne le ferons pas. Nous n'irons pas dans les villes sans cela. Et alors que nous faisons cela, nous le transformons en une énorme machine qui est encrassée à l'intérieur. Voyez, nous devons donc nous éloigner de cela, de ces capacités humaines. Nous devons en arriver au point où nous pouvons abonner nos âmes et nos vies. Même la ménagère, le fermier, le mécanicien, et qui nous soyons, nous devons nous livrer entièrement à Dieu et savoir que nous sommes rien. Puis laissez Dieu partir de là. Alors il commence à bouger, à travailler, et cela nous englobe tous, chacun d'entre nous. C'est la chose que nous devons faire. L'histoire prouve, elle le fait maintenant, elle prouve, l'histoire le fait, que Dieu choisit toujours les rien du tout pour en faire ses quelqu'un. Dieu prend la personne qui n'est rien. Aujourd'hui, à moins que vous n'ayez une bonne formation théologique, il est préférable que vous n'essayez même pas d'approcher de la ville. Il est préférable que vous n'essayez même pas d'approcher une réunion. Mais si vous avez un bagage important, avec beaucoup d'instructions et de choses derrière vous, vous pouvez aller dans n'importe quelle ville et obtenir de la coopération avant un grand rassemblement. Eh bien, ce n'est pas un rassemblement, c'est un rassemblement juste comme n'importe quel autre. Mais quel bien cela fait-il? Voyez, vous avez ces petites filles et garçons qui arrivent. Ils du chewing-gum. Elles vont à l'hôtel. Et hommes et femmes vont là juste pour dire qu'ils sont allés à l'hôtel. Ils vont dans la chambre d'instruction, ressortent et sont aspergés ou immergés, ou quoi que ce soit. Et un an après, l'un des plus grands évangélistes a dit que s'ils savaient qu'ils pourraient conserver 10% de ces conversions pendant un an, ils seraient heureux. Alors que s'il y avait 1000 conversions, l'année d'après, il devrait y en avoir 10 000. Voyez, nous manquons la cible, nous manquons le but. Certains d'entre nous baptisons cela sur une conception intellectuelle. Oh, ce « je sais tout », cet homme est un érudit. Nous devrions former nos gens à les instruire. L'autre le base sur quelques sensations de mouvement, trembler, pleurer, crier, danser dans l'esprit ou quelque chose comme cela, une œuvre émotionnelle extérieure. Et c'est aussi mauvais que l'instruction. Si le diable ne peut pas vous avoir de ce côté-ci, il vous poussera de ce côté-là. Mais en réalité, il faut que vous n'ayez rien en vous sur lequel vous puissiez compter, ou rien que vous puissiez faire, seulement un abandon total, complet de vos faiblesses à Dieu, et dire « me voici ». Ne rien avoir, aucune capacité dans laquelle vous pourriez vous confier. Regardez dans l'Écriture et voyez. J'ai écrit ici les versets auxquels je me réfère. En revenant aux Écritures, nous voyons que Dieu a toujours utilisé les rien du tout pour en faire ses quelqu'un. Il a toujours pris ceux que le monde avait rejetés, ceux que l'âge moderne avait rejetés, et c'est cette sorte-là qu'il a ramassé pour l'utiliser. Considérez les apôtres, pensez à Pierre, le pécheur, pas assez d'instructions pour écrire son propre nom, Jean, l'ignorant et l'illettré. Ces hommes-là, il délaissa les nobles et les prêtres instruits et les gens renommés de ces jours-là, les érudits, les membres d'église, ces gens qui pensaient qu'ils étaient quelqu'un. Et il prit ceux qui n'étaient rien et les utilisa. Maintenant, quelqu'un qui est quelqu'un peut devenir l'un de ses enfants. Dieu peut les utiliser s'ils sont prêts à oublier qu'ils sont quelqu'un. Si vous êtes prêt à oublier que vous êtes quelqu'un pour devenir un rien du tout, alors Dieu peut vous utiliser, faire de vous quelqu'un. Voyez, mais il vous faut oublier que vous êtes tellement important. Il y en a beaucoup parmi nous qui faisons cela dans nos vies. Certaines personnes, aussitôt qu'elles deviennent chrétiennes, elles deviennent arrogantes, indifférentes. C'est vrai. Elles suivent tout simplement le sentier à l'envers. Elles vont en arrière au lieu d'aller en avant. Plus vous pouvez en sortir de vous, plus vous faites de place pour que le Saint-Esprit entre. Comme Élie qui disait à Josaphat et aux autres, « Qu'on remplisse de fosses cet endroit, plus profond vous creusez, plus de place vous allez avoir pour de l'eau. Et plus de notre moi-même, du fatras de nos propres capacités, nous pourrons jeter hors de nous, plus de place il y aura pour être rempli de l'Esprit de Dieu. » Aussi longtemps que nous pouvons faire cela. Paul, celui dont nous voulons juste lire quelque chose ici, dans les Corinthiens, dans 2 Corinthiens, nous voyons que cet homme était un grand homme. C'était un érudit, un personnage important. Mais il dut oublier tout ce qu'il avait appris, de manière à connaître Christ. Je vais lire un de ces versets ici, pour que vous voulez le lire avec moi. Prenons 1 Corinthiens, le second chapitre et le premier verset, juste une minute. Et lisons ici juste une minute ce que Paul disait, ce personnage érudit, ce qu'il disait au sujet de lui-même, ce qu'il avait dû faire. 1 Corinthiens, le second chapitre de 1 Corinthiens, en commençant au verset premier. Écoutez cet érudit. Cet homme était instruit. Il pouvait parler à peu près chaque langage qu'il y avait au monde. Il pouvait s'en vanter. Il avait été élevé dans la secte stricte des pharisiens, et son père était pharisien. Plus tard, il devint un pharisien parmi les pharisiens, et cela signifie qu'il est absolument le plus strict des pharisiens. C'était quelqu'un de grand, et il avait de l'autorité, et il était adroit. Son père l'avait fait instruire par le meilleur professeur qu'il y avait dans tout le pays, Gamaliel, en ce temps-là. Le professeur le plus distingué parmi toutes les écoles. Paul devint ce genre d'homme. Il apprit toutes les langues, il apprit la psychologie, il apprit toutes les différentes choses qui peuvent être apprises de cette manière. Et il s'appuyait fortement sur le tabernacle des prêtres et sur les grands personnages. Et il allait à différents endroits et faisait des ravages dans l'église. Écoutez ce même homme avec toute son instruction après qu'il ait reçu Christ. Écoutez ce qu'il dit. Il dut oublier combien il était fort et grand. Il dut réaliser qu'il ne pouvait pas compter sur lui-même. Il dut réaliser que son instruction n'était rien. Il dut réaliser que de toute la formation qu'il avait eue, il avait dû oublier tout ce pourquoi il avait été formé. Écoutez-le maintenant. Moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Voyez-vous, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je ne suis jamais venu à vous pour vous dire, voici, je suis docteur Sol de l'école d'un tel. Je suis de la grande secte de cette dénomination. Je ne suis jamais venu à vous comme cela. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Écoutez le témoignage d'un homme comme cela. Je n'ai pas la pensée de savoir quelque chose de vos capacités. Je sais qu'il n'y a rien en vous, et j'ai seulement la pensée de savoir une chose que je vois en vous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le Sauveur crucifié parmi vous, c'est tout ce que je vais reconnaître. Écoutez-le. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de grandeur. De quoi? Faiblesse. De crainte et de grand tremblement. Pouvez-vous imaginer un homme, un pharisien parmi les pharisiens, un professeur parmi les professeurs, un homme formé depuis son enfance pour le ministère, pour être un homme éloquent, qui était habile et brillant, venir devant une classe de gens comme les Corinthiens et dire, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Un homme qui a bouleversé le monde, le plus grand missionnaire qui ait jamais été connu, confessé qu'il est venu dans la faiblesse, pas comme un savant érudit, mais dans la faiblesse, dans la crainte, de peur qu'il ne sorte du sentier quelque part, dans un grand tremblement, parce qu'il ne pouvait pas se fier à ses propres capacités. La raison pour laquelle il était dans la crainte, ce n'est pas parce qu'il était effrayé par quelque chose, mais il avait peur de déplaire à Dieu de quelque manière, de mélanger ses propres capacités à cela. Quelque chose qu'il avait appris, qu'il avait, il leur disait, je ne suis pas allé chez vous avec cette supériorité de langage. Je suis venu à vous dans la crainte de venir de cette manière-là. Mais je suis venu chez vous ne sachant rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de crainte, de faiblesse et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Écoutez cet homme qui était un guerrier et qui s'était dépouillé. Amen. S'il y a quelque chose dans nos écoles en besoin aujourd'hui, s'il y a quelque chose dans nos églises en besoin aujourd'hui, c'est de se dépouiller d'elle-même, de vos propres pensées et de vos propres capacités. Dépouillez-vous devant Dieu, de peur que vous n'essayez de faire quelque chose par vous-même. J'espère que cela descend profondément en nous, aussi bien ici que dans le monde des bandes, que vous réalisez que vous devez devenir rien. Pas un je sais tout, pas un grand quelqu'un, mais un rien du tout. Vous devez devenir la poussière. Vous devez en arriver au point où vous savez que vous n'êtes rien. Et ne vous élevez jamais au-dessus de cela, car aussitôt que vous élevez au-dessus de cela, vous vous élevez au-dessus de Dieu. Vous devez vous maintenir dans la poussière et sur le chemin de Damas. Vous devez vous maintenir loin de vos grands chevaux. Et c'est pour partout, ici et dans le monde des bandes. Ma parole, dit-il, ne reposait pas sur les discours persuasifs et sur la sagesse de l'homme, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance.
Amen.
Maintenant, observez bien. Pourquoi, Paul, pourquoi tu fais ceci? Puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Amen.
Oh, quel prédicateur! Ce grand homme, il cherchait Dieu. Elle dit, « Dieu, je suis faible. » et je ne sais pas quoi faire. Je te prie simplement, Dieu, de me fortifier et d'éloigner de moi mes infirmités et ces choses pour que je puisse être plus fort. Dieu lui répondit en disant, Paul, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Alors Paul dit, quand je suis faible, alors je suis fort. Oui, il dit, je me glorifierai dans mes infirmités, dans mes faiblesses et ainsi de suite. Je remercie Dieu de ce que j'ai fait sortir tout ceci de moi. Et que je fais tout sortir de moi, alors Dieu peut entrer. Mais aussi longtemps que j'ai quelque chose de moi-même là, alors Dieu ne peut pas entrer. Là, ceci, nous l'empêchons d'entrer, nous le repoussons avec nous. Depuis le plus pauvre d'entre nous jusqu'au plus riche d'entre nous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, nous tenons Dieu hors de nos vies à cause de nos moi-même. J'ai souvent dit le plus grand ennemi que j'ai est William Branham. Il est celui qui se met dans le chemin de Dieu. Il est celui qui devient paresseux. Il est celui qui en arrive au point parfois où il pense qu'il peut faire quelque chose à ce sujet. Et quand il le fait, cela repousse directement Dieu hors du tableau. Mais quand je peux me débarrasser de ce gars-là, quand je peux en arriver au point où il est hors du chemin, alors Dieu peut venir et faire des choses dont William Branham ne sait rien. C'est alors que Dieu peut vous utiliser. C'est alors qu'il peut utiliser qui que ce soit parmi vous. Il peut utiliser n'importe qui quand nous nous retirons du chemin. Mais aussi longtemps que nous tenons dans le chemin, alors nous ne pouvons pas. Très bien. Maintenant, nous voyons que ce grand homme, Paul, il était un prince parmi les prédicateurs. Il était respecté par toutes les dénominations. Cet homme-là pouvait aller dans une ville et avoir une réunion n'importe où. Pourquoi? Il avait des lettres de créance. Parce qu'il était si grand et si déterminé à écraser tous les gens qui étaient faibles. Il obtint des pouvoirs du souverain sacrificateur, la plus haute autorité, pour lier chacun de ses chrétiens, en pouvoir politique de son Église, pour les lier tous. Oh, il était fort. Il pouvait lier les chrétiens et les jeter en prison, parce qu'il ne voulait pas penser comme lui concernant ses doctrines théologiques, concernant les doctrines des pharisiens et des sadducéens. Il liait les chrétiens. Mais notez qu'il dut être lié lui-même afin de pouvoir perdre cela, afin de pouvoir perdre sa force et son autorité. Il fut lié lui-même pour perdre ce qui lui donnait le pouvoir de lier. Il devait perdre ce qu'il était afin d'être lié. Dieu passe à côté des gens distingués. Il passe à côté des prêtres. Il passe à côté de ceux qui étaient arrogants. Elle choisit Paul, ce grand personnage. Elle le fit tomber dans la poussière de la terre et faire des choses que, comme ces autres-là faisaient, il le fit agir de la même manière que ceux qui l'arrêtaient. Il y a Paul par l'Esprit de Dieu pour le délier du pouvoir qu'il avait de lier les chrétiens. Dites-moi que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il lui enleva sa force de manière à lui faire lâcher prise. Combien de pasteurs Dieu pourrait utiliser ce matin s'il voulait seulement laisser Dieu les lier par sa parole et par sa puissance et les délier de la force de ses dénominations et de ses organisations? Combien de personnes sincères dans cette ville ce matin qui vont dans ces grandes églises organisées? Combien pourrait-il en remplir du Saint-Esprit et mettre ce pays à feu avec l'Évangile et la puissance si elles voulaient seulement prendre et se détacher de la puissance qu'elles ont, être liées par son Esprit pour être comme Paul était, un esclave de Dieu par amour? Amen. Dieu prit Paul et en fit un esclave. Il l'attacha lui-même et l'envoya vers les gentils qu'il haïssait. Mais voyez-vous, il devait être détaché de son pouvoir ecclésiastique pour être rattaché à la puissance de Dieu. Il devait perdre sa force et devenir faible et rien du tout afin de recevoir la force de Dieu, d'être attaché à Dieu, de faire ce que Dieu lui dirait de faire. C'est ce que nous avons à faire aujourd'hui. C'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont tout homme a besoin. C'est une perte de lui-même. Une perte de ses capacités, une perte de ce qu'il est, de ce qu'il est, afin qu'il puisse avoir un complet abandon au Saint-Esprit. La ménagère a besoin de cela, l'écolier a besoin de cela, même nos petits-enfants. Un certain petit garçon auquel je suis en train de penser, hier après-midi ou le jour avant-hier ou un jour, il rentra et fit rédiger rapidement son devoir par sa plus grande sœur. Il ressortit et dit au petit garçon, « Ses problèmes étaient faciles. » Voyez, on leur apprend presque à tricher. Combien il serait préférable? Et ces gens-là sont des colonnes dans une église. Combien il serait préférable que le papa, un matin, au moment du petit déjeuner, dise, « Jean va voir son examen aujourd'hui. Oh Dieu, sois avec Jean. Aide Jean. » Il m'a demandé dans la chambre à coucher ce matin, il m'a dit, « Papa, prie pour moi aujourd'hui, je vais passer mon examen, prie pour moi. Je préférerais que mon garçon ait un bon et honnête zéro sur son carnet, qu'il soit recalé, plutôt que de savoir qu'il a obtenu la note maximale en ayant triché. Oui, monsieur, ce dont nous avons besoin, c'est de perdre ce que nous sommes, et de compter entièrement sur la puissance de Dieu. » Maintenant, attaché, Dieu passe à côté des gens distingués et prend la faiblesse. Dieu passe à côté de ceux qui pensent être quelque chose pour prendre quelqu'un qui sait, qui ne sait rien, afin d'accomplir son dessein dans leur vie. C'est ce que nous obtenons. Dieu dit à Paul, « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma force devient plus parfaite alors que tu deviens plus faible. Plus tu peux t'abandonner à moi, mieux je peux t'employer. » Plus tu peux oublier ton instruction, plus tu peux oublier ta dénomination, plus tu peux oublier tes balivernes et t'abonner à moi, plus je peux t'utiliser. Parce que tu deviens faible, je vais rendre fort mon propre dessein.
Amen.
Dieu peut fabriquer de la force à partir de la faiblesse. C'est pourquoi il a toujours fait cela. Quand il a choisi ses disciples, qui aurait pensé l'humilité de son propre fils lorsqu'il est né dans une crèche? Dans une étable pleine de fumier, dans une case à vaches, et puis enveloppé dans des langes. Voyez, il aurait pu venir dans un palais. Il aurait pu descendre les corridors du ciel, tous les anges au garde à vous. Mais il choisit de faire de Christ notre exemple, pour nous. Et il le fit venir dans l'humilité. Il ne l'a jamais formé dans les écoles de ce monde. Mais il l'a formé par sa propre puissance, afin qu'il puisse complètement s'abandonner, non pas aux pensées de l'homme ou à la force du monde, mais s'abandonner à la puissance de Dieu.
Amen.
Et c'est ce qu'il y a avec nous aujourd'hui. Nous nous abandonnons aujourd'hui dans nos grandes dénominations, nous nous soumettons à la dénomination, à ce qu'elle dit, à ce qu'ils disent à ce sujet. Mais c'est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons nous abandonner à l'Esprit de Dieu et aller où l'Esprit nous dit d'aller. C'est vrai. Les Hébreux de Dieu, les soldats de Dieu plutôt, les héros, nous avons justement lu dans le livre des Hébreux le 11e chapitre et le 4e verset. De faibles qu'ils étaient, furent rendus vigoureux. Il fallait qu'ils deviennent faibles avant de pouvoir devenir forts. Dans leur faiblesse, ils ont été rendus forts. Vous qui inscrivez les versets là-bas, Hébreux 11, 34. Très bien. Voici quelque chose pour nous consoler. Voici quelque chose qui encourage. C'est de la faiblesse et de l'humilité que Dieu choisit le peuple dont il bâtit son royaume. Si un jour nous allons au ciel, si un jour nous tenons la présence de Dieu avec son Église, nous nous tiendrons au milieu d'un groupe de gens qui ont été faibles, rejetés et mis à la porte par le monde. Des « je ne sais rien ». N'est-il pas étrange que Dieu nous compare à des brebis? Une brebis est la chose la plus impuissante qui soit. Il n'y a rien qui manque autant de défense qu'une brebis. Un lapin peut courir. Un écureuil peut monter dans un arbre. Un chien peut mordre. Un lion peut déchirer. Un cheval peut ruer. Un oiseau peut voler. Mais une brebis est là impuissante. Et c'est comme cela que Dieu nous veut. Lorsque nous réalisons que nous sommes tout à fait insuffisants, alors Dieu prend cette personne-là et commence à se fondre lui-même dans cette personne, à faire que ses mains fassent ce que Dieu voudrait que des mains fassent, à faire dire à ses lèvres ce que les lèvres de Dieu auraient dit, parce que ce ne sont pas les siennes, mais ce sont celles de Dieu. Il commence à façonner un caractère. Il commence à prendre cette faiblesse et à en faire sa personne même. Il nous met ici sur la terre, car alors, nous sommes instruits, nous sommes adroits. Avez-vous déjà remarqué les lignes de descendance, les lignées? Que nous prenons par exemple comme Abel. Comment Abel? D'Abel vient Seth. La lignée de Seth continue directement jusqu'au temps de Noé. Tout cela était simplement d'humbles fermiers. Mais les enfants de Caïn devinrent adroits, perspicaces, instruits, de grands personnages, des constructeurs, des spécialistes. Mais le côté de Dieu était faible et humble. C'est comme cela que Dieu les a employés. C'est là l'occasion de Dieu. C'est là le moyen pour Dieu d'arriver jusqu'à nous. C'est lorsque nous sommes faibles. Nous recevons quelque chose alors. Ceci est encourageant, bien sûr, parce que le royaume de Dieu tout entier est construit avec cette sorte de gens. Alors que vous atteignez cette sorte de chemin, alors vous êtes dans son royaume. Le problème avec nous, ce n'est pas que nous sommes trop faibles. Le problème est que nous sommes trop forts. Nous sommes simplement trop forts, c'est tout. Le fait est que nous sommes de trop fortes têtes. C'est vrai, nous sommes trop forts de la tête. Nous en savons trop. Dieu veut enlever cela de nous. C'est vrai. Nous sommes trop forts. Nous sommes trop forts pour nous abandonner à lui. Nous nous abandonnons à nous-mêmes. Nous en arrivons à penser, bien, maintenant voici, j'ai assez de bon sens pour savoir. J'ai été stupéfait il y a quelques nuits quand maman était malade à l'hôpital. Je suis allé à... Il y avait une petite dame dans la chambre à côté. Si cette petite dame est ici, pardonnez-moi, sœur. C'est une fille de là-bas, au Kentucky, et c'était sa belle-mère. Et je lui parlais cette nuit-là, ma femme et moi, jusqu'environ 1h du matin. Et son mari s'était allongé sur le plancher et s'était endormi. Elle dit, « Sors d'ici, tu ne sers à rien ta maman de toute façon. » Elle le chassa, son mari, hors de la chambre, parce qu'il était tendu de tout son long à travers la porte, ce qui faisait que ni les infirmières ni personne ne pouvait entrer. Il ronflait tout ce qu'il pouvait sur le plancher. Alors elle le fit lever et le mit dehors. Et elle se mit à parler là. Je me mis à lui parler du Seigneur, ainsi de suite. Elle dit, « Eh bien, je n'ai rien connu d'autre qu'une binette dans un carré de tabac, tôt le matin, arrachant les mauvaises herbes et suçant du tabac, et ainsi de suite comme cela. » Elle dit, « Mais je vous dis, papa nous a tous envoyés à l'école. » Et elle dit, « Nous n'avons pourtant pas acquis de bon sens. » Je pensais, « Eh bien, c'est peut-être ça la raison. Voyez, vous devez vous abstenir des choses du monde. » Maintenant, je ne suis pas pour l'ignorance, ce n'est pas cela. Mais je suis en train d'essayer de penser au moment où vous en arrivez au point, où vous pensez tout simplement que vous en savez tellement que personne d'autre ne sait rien à ce sujet. Votre connaissance est une très bonne chose, aussi longtemps qu'elle n'entrave pas les promesses de Dieu. Nous sommes contrôlés par 5 sens, et ces 5 sens, vu, goût, toucher, odorat, oui, sont très bien, tant qu'ils n'interrompent pas le sens de la foi. Quand ils s'opposent à la foi, comment saurez-vous lequel a raison? Parce que la foi s'accordera toujours avec la parole. Donc, si votre foi est contraire à la parole, ou que vous pensez qu'elle l'est, alors vous n'avez pas la foi. Vous avez de la frime. Vous avez un objet d'orgueil dans vos sens, provenant de quelque érudition que vous avez acquise, ou de quelque chose ainsi. Mais quand vous éloignez de cela, et que vous reposez complètement sur la foi, et la foi peut seulement être édifiée sur la parole de Dieu, la foi correcte. Un docteur me dit une fois, « Je crois, Billy, que ces gens, si tu leur disais d'aller là-bas et de toucher ce poteau-là, cet arbre-là, et qu'ils croient qu'ils seraient guéris, ils seraient guéris de la même façon. » Je dis, « Non, monsieur, cela ne se peut pas, docteur, à cause de ceci, voyez, ces gens savent que ce n'est qu'un poteau. Ils savent qu'il n'y a pas de vertu ni de force dans ce poteau. Mais tout homme qui est mentalement équilibré saura que c'est la parole de Dieu vivant. » sur laquelle je peux fonder ma foi et savoir que c'est ainsi dit le Seigneur. Et si quelque chose est contraire à cela, alors je ne crois pas à mes sens. Non, monsieur, laissez-le simplement. Suivez votre autre sens, le sens de la foi. Très bien. Dieu prend ces gens-là pour faire, quand ils sont des rien du tout, ils s'abandonneront à lui. Dale Moody de Chicago, il était de Boston, il était cordonnier, un petit bout d'homme sans capacité, qui ne s'appuyait pas sur lui-même. Maintenant, prenez ces prestigieuses écoles qu'ils ont, l'Institut Moody là-haut, si Dwight Moody pouvait ressusciter et voir cette école-là, la première chose que Dwight Moody ferait serait de se débarrasser de cette école. Si Martin Luther pouvait ressusciter, la première chose qu'il ferait serait de se débarrasser de l'organisation luthérienne. John Wesley ferait de même. Ces hommes n'ont jamais fondé ces organisations. C'était les hommes qui les ont suivis qui ont fait cela. Paul n'a jamais organisé une quelconque église, parce qu'il a dit lui-même, « Après mon départ, des hommes de vos propres rassemblements se lèveront parmi vous, disant des choses perverses. » Ce fut après la mort de Paul, 100 ou 200 ans après cela, qu'ils formèrent l'Église catholique, la première organisation. Des hommes se lèveront. C'est après la mort de Moody qu'ils eurent l'Institut Moody. Après la mort de Wesley, qu'ils formèrent l'Église wesleyenne. Après la mort de Luther, qu'ils formèrent l'Église luthérienne. Dieu envoie des héros, et ils bâtissent. Pas étonnant que Jésus ait dit, « Vous, murailles blanchies, » il disait, « Vous décorez les tombes des prophètes, et vous êtes ceux qu'ils ont mis dedans. » C'est vrai. Ces grands hommes se sont levés. Ensuite, ils leur ont construit un monument. Je pense tout comme David, il a bien servi Dieu en son temps. Ainsi, c'est la façon de faire. Laissez les organisations et ces choses-là. Tenez-vous-en éloignés. Moody, un petit cordonnier, il était faible. Il était un modèle de faiblesse. La première chose, est-il dit que Moody a fait, n'avait pas d'instruction du tout. Et sa grammaire était si médiocre que c'était horrible. Un homme s'approcha de lui une fois et dit, « Monsieur Moody, votre grammaire est la plus médiocre que j'ai jamais entendue de ma vie. » Il dit, « Je gagne des âmes avec mon ignorance. Que faites-vous avec votre instruction ?» Je trouve que c'était une bonne réponse, sûrement. Et maintenant, vous devenez membre de cette école. Vous devrez assurément être un brillant érudit. C'est vrai. Maintenant, oui, ils ont fait le contraire, c'est vrai. Ils sont retournés directement dans l'autre direction. C'est ce que les gens font. Quand je disais au début de mon message, au lieu de chrétiens qui s'humilient et qui se vident d'eux-mêmes pour faire plus de place pour Dieu, ils essayent de s'élever par le moyen d'une connaissance autodidacte ou par la connaissance de quelque école spécialisée ou par quelque chose qui les conduit plus loin de Dieu que lorsqu'ils ont commencé. C'est cela que je pense de ces appels à l'autel artificiel. Vous le faites entrer, et la fois suivante, il est 10 fois plus difficile de le faire revenir. Qu'il s'assoie et qu'il écoute jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose pour lui. Et alors qu'il vienne, qu'il le confesse et se lève en invoquant le nom du Seigneur. C'est juste. Voyez Moody, faible en instruction, faible en parole, il parlait du nez. Je lisais justement son histoire l'autre jour. Il parlait du nez à cause d'une infection nasale. Physiquement, petit, le gars était chauve, une barbe hirsute, un tout petit bout d'homme. Physiquement, c'était une épave physique. Ainsi, il n'avait rien, sinon une faiblesse continuelle. Mais Dieu l'utilisa pour révéler le monde de son temps. Une fois, il y a un reporter qui allait à sa réunion. J'ai lu cela. Et des reporters pour faire un article sur le genre d'homme que c'était, un grand personnage, un grand gaillard. Où est ce petit interrupteur avec lequel vous arrêtez le déroulement des bandes? C'est ceci. Je vais devoir arrêter là. Moody était un grand homme. Il était un homme remarquable. Et ainsi, il pouvait retenir l'attention des gens, les garder sous le charme. Il y eut donc un reporter qui alla vers Moody et dit, il alla à la réunion pour faire un article sur l'espèce de grand bouleversement, comme le reporter qui est allé faire récemment un article sur un autre grand évangéliste. Il disait, « Cet homme est éloquent, c'est un docteur en théologie, il emploie la meilleure grammaire que j'ai jamais entendue, il tient les gens par sa psychologie, il peut les tenir sous le charme. » Dwight Moody, quand le reporter y allait, il dit, « Je ne vois pas ce qui est en lui, peut être attirant pour quelqu'un. » Il dit, « Tout d'abord, il est tout ce qu'il y a de plus laid. Ensuite, c'est physiquement une épave. Ensuite, dit-il, il n'a pas d'instruction. Sa grammaire est la plus médiocre que j'ai jamais entendue. Et disait-il, il parle du nez et le joint quand il prêche. Et de dire, je ne vois rien en Dwight Moody qui retiendrait l'attention de quelqu'un. » L'article fut apporté à M. Moody. Il le lit, il eut comme un petit rire étouffé et dit, « Certainement pas, c'est Dieu. C'est sûr. » Les gens ne viennent pas pour voir Dwight Moody, ils viennent pour voir Dieu. Amen. Les gens ne s'occupent pas de combien vous témoignez. Ils veulent une réalité là dans votre vie qui prouve que Dieu vous a saisi. Amen. Que vous soyez méthodiste, baptiste, pentecôtiste, quoi que vous puissiez être, ils veulent voir Dieu. C'est vrai. Des hommes de gros hommes, des hommes qui sont faibles et réalisent leur faiblesse. Regardez Moïse, le jeune homme intellectuel. Oh, c'était un érudit. Il était tellement instruit dans toute la sagesse des Égyptiens qu'il pouvait enseigner les Hébreux, il pouvait enseigner les Égyptiens, il pouvait enseigner n'importe qui, parce que Moïse était un grand homme, un gars intelligent. Oh, c'était un homme puissant! Comme Cécile de Mille l'a conçu lorsqu'il fit jouer les 10 commandements, il fit venir cet homme qui était... J'oublie le nom de l'homme qui a joué le rôle de Moïse là-dedans. Quelque acteur. Mais un homme énorme, avec de grands bras et fort. Et Moïse était peut-être cette espèce d'homme. Nous savons qu'il était fort et bien enseigné. Il prit donc sur lui-même. Voyons le besoin du jour. Oh, que Dieu fonce ceci profondément. Voyons le besoin du jour. Moïse, avec son pouvoir intellectuel et la capacité qu'il avait pour le faire, c'était un homme intelligent, c'était un futur pharaon, il était psychologue, il était puissant, il avait de la force physique, il avait tout. Donc il dit, je suis bien équipé, je sais tout là-dessus. Et s'il y a un homme dans le pays qui est capable de le faire, c'est moi. Donc, je suis l'homme de l'heure. Donc, je vais y aller. Elle sortit pour accomplir une œuvre qui était juste et dans la volonté de Dieu. Et il offrit ses capacités naturelles et Dieu les refusa. Il ne pouvait pas utiliser une seule chose que Moïse avait. Il ne pouvait pas les utiliser alors, il ne le peut pas non plus maintenant. Dieu ne peut pas utiliser nos capacités naturelles. Nous devons nous enlever du chemin nous-mêmes et nos capacités et nous livrer la volonté à la puissance de Dieu.
Amen.
Vous dites, eh bien frère, je peux prêcher. Il ne peut pas utiliser cela aussi longtemps que vous pouvez prêcher. C'est en ordre. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Vous ne pouvez rien faire. À ce moment-là, Dieu ne peut pas l'utiliser. Mais si vous abandonnez à Dieu et que vous le laissez faire, vous dites, eh bien frère Branham, je sais, je suis un enseignant, un docteur, eh bien aussi longtemps que vous êtes l'enseignant, alors il n'ira pas très loin. Mais le Saint-Esprit est notre enseignant, certainement il l'est. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour être le précepteur de l'Église. Certaines personnes vont à l'école pendant des années et des années et des années. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent des articles dans le journal La Chambre Haute. Et ainsi, oh c'est bien, vous prenez la leçon de l'école nationale du dimanche. Je n'ai rien à contre, ce sont les paroles de Dieu et des choses comme cela. Mais c'est mélangé d'intellectualisme. Cela doit venir par la puissance et la résurrection de Christ.
Amen.
Et vous ne pouvez pas compter sur vos capacités naturelles. Moïse donc, ce jeune homme intellectuel, ce géant beau et fort, il sortit pour faire une bonne action. Mais Dieu, tout simplement, ne pouvait absolument pas utiliser cela. Il ne pouvait pas utiliser ses capacités naturelles. Et nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous ne puissions pas. Dieu ne peut pas utiliser nos capacités naturelles. Mais il y a une chose en Moïse que j'admire. Il avait suffisamment de bon sens pour savoir qu'il était battu. Nous ne l'avons pas. C'est tout. Nous allons faire une nouvelle dénomination. Nous allons prendre quelqu'un d'autre avec un don de guérison ou quelque chose. Les pentecôtistes, voyez-vous. Vous voyez, nous n'en savons juste pas assez pour savoir que nous sommes battus. L'Église pentecôtiste, les assemblées de Dieu, l'Église unitaire, elles le restent d'entre elles. Il semble qu'elles n'aient pas la capacité de savoir qu'elles sont battues. Alléluia. Oh, je voudrais pouvoir le faire pénétrer. Elles sont battues. Les Églises organisées sont battues.
Amen.
Exactement comme ces États-Unis sont battus. Dans la peur et le tremblement, et les bombes sont suspendues là-bas pour eux. Ils savent qu'ils ont dansé à l'extrême et qu'ils ont donné rendez-vous à leur vie en enfer. Ils sont battus, l'esprit les a quittés. Il faudrait passer au peigne fin les arbres pour trouver des jeunes gens pour aller à l'armée. Ils ont vu ce qui est arrivé à l'autre guerre. Nous sommes battus, l'Église est battue. Ils le savent, Moïse le réalisa. Il en savait alors assez. Dieu l'emmena au fond du désert pour lui apprendre quelques faiblesses humaines. Il l'emmena pour lui apprendre ce qu'il en était de tout cela. Il apprit si bien. Oh là là, quelle leçon il a eue. Dieu a dû avoir beaucoup à faire avec lui là-bas. Vous savez, Moïse avait un fort caractère, et Dieu lui donnait la femme qui s'appelait Séphora. Elle en avait un aussi. Ainsi, j'imagine que tout n'était pas toujours très agréable là-bas, derrière le désert, pendant quelque temps, quand les deux se mettaient en colère en même temps. Je suppose que sa conception intellectuelle de comment la psychologie doit contrôler une personne ne faisait pas grand bien, parce que quand il était en route vers l'Égypte, je vois que Séphora avait toujours un tempérament. Elle coupa le prépuce de son fils et le jeta devant Moïse en disant, « Tu es pour moi un mari de sang. » Et Dieu était si courroucé contre lui qu'il le cherchait à la fin. S'il avait pu le trouver, il l'aurait tué. Je pense qu'il y avait de petites choses que Dieu devait lui enseigner là-derrière, voyez, qu'il était un humain. Toute sa sagesse de l'Égypte et toutes ses capacités intellectuelles, Dieu ne pouvait pas en utiliser une seule. Vous arrivez en disant, « Maintenant, Seigneur, j'ai été instruit pendant 40 ans maintenant. Je suis un étudiant intellectuel. Je peux citer cette Bible, les yeux fermés. Dieu ne peut rien utiliser de cela. » Voyez, non. « Oh, j'appartiens à la plus grande église qu'il y a dans le pays. Je suis ceci, Seigneur. Oh, je suis pentecôtiste. Gloire à Dieu. Je viens de recevoir le Saint-Esprit l'autre soir. Alléluia. Tu vas me faire faire telle et telle chose. » Dieu ne peut rien utiliser de cela, non. À chaque fois que vous êtes battu et que vous réalisez que vous êtes battu, alors revenez et humiliez-vous. Devenez faible et découvrez que vous êtes un humain. Et il n'y a aucune de vos capacités intellectuelles qui pourront faire pour... Les faiblesses humaines ne seront jamais utilisées par Dieu. Dieu, à travers les faiblesses humaines, se déverse lui-même en vous, puis il s'utilise lui-même. Vous devenez simplement un instrument. Certainement, vous devez absolument vous mettre en dehors du chemin. Moïse, oh, il a pris vraiment bien les faiblesses humaines. Il les a pris tellement bien que quand Dieu l'appela, il avait cette faiblesse qu'il pouvait opposer à l'appel de Dieu. Avez-vous déjà étudié dans la première partie de l'Exode les sept faiblesses? Je les ai écrites ici. Je désire que vous les écoutiez. La première faiblesse qu'il avait était un manque de message. La seconde faiblesse qu'il avait était un manque d'autorité. La troisième faiblesse qu'il avait était un manque d'éloquence. La quatrième était l'adaptation. La cinquième était le succès. Et la sixième était l'acceptation. Maintenant, vous comparez les vôtres avec les siennes et voyez si vous pouvez aboutir à cela. Voyez si vous pouvez devenir aussi faible qu'il était. Seigneur, je ne suis rien de bon, je ne sais pas parler, j'ai tué un Égyptien, je ne peux pas y retourner, oh tout, ils ne me recevront pas, je n'ai pas de message, je ne peux pas parler, je suis lent à parler. Vous voyez comment il était? Il n'était rien! Frère, il avait eu sa cure! Oui, Dieu peut alors l'utiliser, une fois qu'il avait eu sa cure. Voyez, oui, il peut nous utiliser une fois que nous avons eu notre cure, que nous trouvons que... Mon doctorat en philosophie et doctorat en droit et quoi que ce soit, que tous mes diplômes ne sont rien, Dieu ne peut pas les utiliser. Eh bien, je suis des assemblées de Dieu, je suis unitarien, je suis baptiste, je suis presbytérien, Dieu ne peut rien utiliser de cela. Plus vite vous vous en éloignez, eh bien mieux vous abandonnerez à Dieu. Comme était le prophète Isaïe, « Je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple impur. » Et l'ange alla et prit des pincettes, alla à l'autel et prit un charbon brûlant et lui toucha les lèvres. Puis il cria, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Oui, après avoir réalisé qu'il, bien qu'étant un prophète, il avait des lèvres impures. Dès que nous pouvons réaliser que nous ne sommes rien, que vous n'êtes rien, vous êtes de la poussière de la terre, Dieu ne peut pas vous utiliser. Oui. Toutes vos faiblesses n'égaleraient pas celles de Moïse. Il avait six faiblesses différentes ici, et il avait appris la faiblesse humaine. Maintenant, regarde la différence entre ce Moïse-là, rencontrant Dieu, et Moïse regardant-le comme aujourd'hui. Dites, ils nous font ceci et cela. Nous avons besoin de réveil dans le pays. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je retourne et j'étudie jusqu'à ce que j'obtienne ma licence S-lettres. Je retourne et j'étudie jusqu'à ce que je puisse être consacré docteur en droit. Je vais étudier la littérature. Je vais faire tout ceci, puis je sortirai, je serai l'homme de l'heure. Je vais étouffer tous ces types qui ont commencé à sortir ici. Oh, frère, j'aurai un bâtiment de 3 millions de dollars. J'aurai une douzaine de Cadillacs. Hey. Oh, frère, vous feriez mieux de ne pas commencer. Parce que vous êtes battu pour commencer, voyez-vous. Mais l'ennui, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils pensent que vous devez avoir les cheveux frisés et porter des smokings et dire « Amen » si joliment. Et tout comme ceci, et être un prince, c'est un pontet de femmes. Dieu veut des hommes pieux, des hommes qui savent trembler. Mais aujourd'hui, nous voulons Hollywood. Nous voulons quelque chose qui est plaisant à l'œil. Nous voulons quelque chose qui puisse parler si intellectuellement, qui puisse nous laisser dormir 5 minutes pendant qu'il le dimanche matin. Dieu veut des séparateurs qui la projetteront comme l'éclair, condamneront le péché à la racine. C'est vrai, le déterreront. Mais nous voulons nos pasteurs intellectuels. La plupart des gens veulent un pasteur qui murmure, quelqu'un qui dise « Oui, mon cher. » Dieu veut des coups de foudre. Oui, monsieur. Il leur passe la main dans le dos et ses cheveux courts et ce maquillage et tout le reste et on porte des vêtements dans lesquels on est comme moulé et tout comme cela. Elles ne disent pas un mot là-dessus. Un grand personnage m'a placé son bureau ici, pas son bureau ambulant. Ici, il n'y a pas longtemps, il disait, « Je veux vous imposer les mains pour que vous arrêtiez ça. » Je dis, « Ne le faites pas, ne le faites pas. » Non, monsieur. Si vous arrêtez cela, vous arrêtez le message. Vous arrêtez Dieu si vous faites cela. Oui, monsieur, nous ne voulons rien de cela. Dieu a-t-il éprouvé de la peine pour Moïse et toutes ses faiblesses, disant, « Pauvre petit Moïse, certainement quelque chose est arrivé. Tu es déçu de ton diplôme. Oh là là !» Voici, oui, tu étais un grand homme, un intellectuel, et rien n'aurait pu t'arrêter. Frère, tu avais tous tes doctorats en philosophie, en droit et tout le reste, et maintenant, te voici confessant que tu n'es rien, que tu peux rien faire, tu es tout simplement si faible. Non, Dieu n'était pas peiné pour lui, Dieu n'a jamais éprouvé de la pitié pour lui. Dieu l'avait alors guéri de tout ce fatras, il n'était pas peiné pour lui. Mais nous voyons, si vous êtes en train de le noter, Exode 4, 14, la colère de Dieu s'enflamma contre lui. Dieu n'était pas peiné pour lui parce qu'il était faible. Vous dites, « Oh Seigneur, je me sens si mal. Je ne crois pas que je pourrais le faire. » Dieu ne se sent pas peiné pour vous. Il se sent le désir de vous faire un peu avancer à coups de pied. Voyez, voyez, c'est sûr. Dieu ne se sent pas peiné pour vous. Il est courroucé contre vous. Vous êtes alors seulement en train d'obtenir la forme nécessaire pour qu'il puisse vous utiliser. Oui. Moïse étant complètement guéri, Dieu peut l'utiliser. Il avait eu sa cure. Il était alors loin des capacités humaines. Il n'avait alors rien sur lequel il pouvait compter. Parce qu'il était alors prêt pour le service. Dieu dit, « Pendant 40 ans, je t'ai laissé te disputer, toi et Séphora, et vous agiter ici dans ce désert, afin que tu puisses découvrir s'il y a une faiblesse humaine ou pas. Tandis que tu tenais là-bas comme un grand prince. Hello, docteur Moïse. Bonjour, monsieur le révérend. Oui, monsieur, Moïse, vous êtes le futur prince. Nous pensons tous à vous. Maintenant, tu es ici dans le désert avec un troupeau de brebis et une femme au caractère fortement trompé. » Voyez, cela le dressa. Oui, monsieur, Moïse était dans un horrible état. Elle dit, maintenant je peux t'utiliser quand tu réalises que tu n'es rien. Maintenant avance par ici vers ce buisson ardent. Je veux t'envoyer là-bas. Oh là là. Dieu, donne-nous-en davantage de cette espèce-là. Donne-nous davantage d'hommes faibles. C'est ce dont nous avons besoin. Des hommes faibles, c'est certain. Il y a eu Jacob, vous savez. Jacob pensait qu'il était un grand homme au début, vous savez. Il pouvait tromper et bien s'en tirer en tout. Il alla et mit des branches de peuplier dans l'abreuvoir où les brebis et le bétail de son beau-père venaient boire lorsqu'elles étaient pleines. Elle en fit des brebis tachetées. Et tout d'abord, vous savez, Jacob devint un grand homme. Certainement, il était vraiment appelé Jacob, pas d'erreur. Ésaü disait qu'il était bien un supplanteur. Donc, c'était un trompeur. Il arrivait habilement, il gagnait, il eut de grands troupeaux, et des femmes, et des brebis, et du bétail, et des bœufs, et tout, il avait tout. Mais une nuit, oh là là, quand une fois il arriva à un petit ruisseau, il allait traverser, il arriva à un endroit où un ange se saisit de lui. Frère, le vieux Jacob se cramponna toute la nuit. Il est certain qu'il se cramponna longtemps, mais quand il se livra lui-même, quand il devint faible, elle ne put plus se cramponner plus longtemps. Oh Dieu, que l'Église devienne comme cela, que l'Église en arrive au point où elle ne puisse plus s'accrocher plus longtemps à ses capacités naturelles, mais où elle doit s'abandonner à Dieu, que les méthodistes soient honteux d'eux-mêmes parce qu'ils sont méthodistes, que les baptistes et les pentecôtistes soient honteux d'eux-mêmes, et arrêtent de s'accrocher et s'abandonnent à l'Esprit. C'est alors que Jacob devint un prince de Dieu. La Bible dit qu'il est devenu un prince et son nom put changer, voyez-vous. Et souvenez-vous, c'était un homme grand et fort de ce côté-ci, intellectuellement puissant. Mais de l'autre côté, c'était un prince boiteux, faible et épuisé. Mais il avait de la puissance devant Dieu. Oui, vous devriez, votre organisation sera peut-être réduite en pièces. Votre prestige dans le voisinage, vous pouvez être un corbeau à l'ancienne mode, à partir de ce moment-là dans le voisinage. Cela peut arriver, mais je vous le dis, vous aurez de la puissance avec Dieu. Je préférerais être comme cela. Je prendrais ce chemin n'importe quand. Les disciples revinrent en se réjouissant parce qu'ils étaient heureux d'être estimés dignes de porter l'opprobre de la cause et de Jésus. Certains, ils vous appelleront saint comédien. Sortez une fois de cet endroit. Ce soit complètement brisé. soyez délivrés de vos, eh bien dites, je suis méthodiste, ou presbytérien, ou je suis des assemblées, je suis unitarien, je suis tout aussi bon que vous. Très bien, sortez une fois de cela, lâchez tout. Laissez une fois l'ange saisir de vous, l'ange du Seigneur qui vous apportera la vérité du message. Laissez-le une fois se saisir de vous, vous humilieriez directement dans le baptême au nom de Jésus, vous humilieriez directement dans le reste de cela. Oui, vous le ferez certainement. Oui, vous oublierez simplement tous ces intellectuels. Il y a quelques jours, une des plus charmantes amies que j'ai, une personne vraiment bien, me dit en quittant la pièce, après notre vue, elle quitte la pièce en disant, « Frère Branham, cette personne a été l'un de mes soutiens financiers dans les réunions là-bas. Je suis arrivé au point où je ne savais pas comment j'allais joindre les deux bouts. Je faisais simplement confiance à Dieu. Cette personne remplissait tout de suite un chèque pour couvrir les besoins. Oui, une personne vraiment bien. Et cette personne fit le voyage depuis une grande ville jusqu'ici, il y a quelques soirs cela. Elle se tenait dans la pièce. Elle me dit en partant, elle dit, « Frère Branham, dit-elle, je veux juste vous dire une chose. » Elle dit, « Je ne connais pas une personne qui ne vous aime. » Je dis, « Je suis très heureux de cela. » Elle dit, « Frère Branham, il y a juste une chose qui ne va pas. » Je dis, « Qu'est-ce que c'est, sœur ?» Elle dit, « Eh bien, la seule chose, c'est ceci. Frère Branham, si vous vouliez juste faire un compromis sur une petite partie de cette doctrine que vous avez, toutes les organisations vous recevraient. » Et je vise alors tout de suite. Je pensais, je dis, « Quelle doctrine, sœur ?» Elle dit, « Oh, ce baptême au nom de Jésus. » Oh, dis-je, mes sœurs, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je fasse un compromis sur la parole de Dieu, tout en restant un serviteur de Dieu. Elle dit, eh bien ici, il y a un groupe de serviteurs de Dieu de cette grande ville dont je suis ici pour représenter. Elle dit, si vous leur dites que l'ange du Seigneur qui vous donne ses visions vous a dit de baptiser au nom de Jésus, alors ils sont prêts à l'accepter. Eh bien, dis-je, leur expérience est plus faible que de l'eau de vaisselle. Je dis, je ne m'occupe pas de ce qu'un homme dirait. Si ce n'est pas conforme à la parole, je ne croirai pas.
Amen.
Je dis, si cet ange me disait quelque chose de différent de cela, je ne croirai pas l'ange. C'est juste la parole de Dieu d'abord, au-dessus de tous les anges et de toute autre chose. Un ange véritable dit, s'il ne me disait pas cela, je ne l'écouterais pas. Oui.
Amen.
La dame ne savait pas quoi faire. Elle dit, je n'ai jamais rien entendu de pareil. Je n'ai jamais rien su à ce sujet. Voyez, vous y êtes. Je donnais donc quelques versets à la petite dame. Elle dit, je vais rentrer directement à la maison à étudier le Nouveau Testament. Je n'ai jamais étudié ceci. Voyez, vous y êtes. Oh là là. Oh là là. C'est à cela que vous en arrivez. Oh là là. Arrêtez d'essayer de vous accrocher. Lâchez prise. C'est cela que vous voulez faire. Lâchez prise. Jacob, quand il lâcha prise, il fut tout à fait bien. Il devint un prince et eut de la puissance avec Dieu. Voici le petit David, revêtu de la veste ecclésiastique de Saül, qui sortit pour combattre Goliath. Et quand David commence à sortir là-bas pour combattre Goliath, revêtu de toute cette grande armure, il regarde autour de lui, et regarde derrière lui, il ressemblait à tous les autres. Il dit donc, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Aussi longtemps que vous êtes comme le monde, et que vous faites des compromis avec le monde, et que vous faites les mêmes choses que le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. David dit, cela a l'air trop fortifié. J'ai obtenu un diplôme de docteur, j'ai obtenu un doctorat en philosophie. Voyez, j'appartiens à une grande organisation. Comment pourrais-je jamais les combattre avec tout ce patras? Je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais rien à ce sujet. David dit, enlevez-moi le fatras. C'est juste, si je vais combattre pour Dieu, je ne veux pas ressembler à ce groupe de lâches qui se tiennent ici. Tout en armes, je ne peux pas avoir une réunion. Beaucoup de réunions, beaucoup d'hommes, beaucoup de pasteurs viennent à moi et confessent qu'ils croient qu'il est juste d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ils disent, notre organisation nous mettrait dehors. Quelle pauvre excuse. Enlevez l'armure de Saül. Donnez-moi la puissance et la force du Saint-Esprit. Dieu, envoie-moi avec une fronde, peu importe ce que c'est, combien c'est petit, pour abattre l'ennemi. C'est vrai. Envoie-moi, mais ne me laisse pas m'attiffer comme le reste d'entre eux, avec des doctorants en droit, en philosophie, des docteurs et toutes cette sorte de fatras. David dit, la chose n'a pas l'air juste. Il dit, je ne sais rien à ce sujet. Il dit, la seule chose que je sache, c'est que j'ai, là-bas, derrière le désert, j'étais en train de garder les brebis de mon père. Elle dit, un lion arriva et prit un petit agneau et s'enfuit avec lui. Et je savais que c'était l'agneau de mon père, et oh, je n'étais pas équipé, mais j'ai juste pris ma fronde et j'ai couru après lui. Il dit, je l'ai tué et j'ai rapporté l'agneau. Oh là là, ceux qui se tenaient là, une lance à la main, n'auraient pas pu le faire. C'est cela le problème aujourd'hui. Dieu a beaucoup de brebis qui se sont égarées. Les organisations, les choses, les ont dérobées, les ont lancées dans la psychologie. Que Dieu donne des David avec la parole de Dieu, la puissance de Dieu, pour la diriger, que nous allons rencontrer ces géants intellectuels. Pensez avec tous les docteurs en philosophie, en droit, le QST, et quoi cela puisse être. Donnez-moi la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et je vous le dis, nous pouvons tuer tout géant sur le champ de bataille. C'est juste. Nous avons besoin d'hommes qui peuvent. David était le plus pauvre prétexte qu'il y avait sur le champ de bataille pour les combattre le géant. Lui, eh bien, il n'était rien qu'un garçon. Et la Bible dit qu'il avait le teint rosé, un petit gars à l'air décharné, les épaules tombant probablement, un morceau de peau de mouton roulé autour de lui. Il n'avait aucun de ses grands diplômes intellectuels. Elle n'était pas bien formée. Il ne connaissait rien d'une épée. Il ne savait rien de toute cette formation que Saül. Saül était le meilleur qu'il pouvait avoir, l'évêque Saül. Certainement, il dépassait de la tête et des épaules le reste de l'armée. Eh bien, il était celui qui aurait dû aller le combattre. Mais il avait peur. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons besoin d'un réveil. Nous savons que les gens ont besoin d'être remués. Ce ne sera pas un docteur en théologie qui saura le faire. Ce sera un faiblard, alléluia, qui prendra la parole de Dieu dans la puissance de la résurrection de Christ et qui mettra cette chose à mort. Cela apportera Christ au pays, leur fera voir qu'il peut toujours ouvrir les yeux des aveugles, guérir les malades, ressusciter les morts, et qu'il est Dieu le vainqueur. Amen. Nous avons besoin d'un David qui ne soit pas formé dans les écoles de théologie. Nous avons besoin d'un homme qui ne sait rien à ce sujet. Quelques petits laboureurs ou quelque chose comme cela. Quelques petits gars aux épaules tombantes, pas grand chose à voir. Qui descendent dans la rue avec la puissance de Dieu. Ma mère était mourante. Elle dit, Billy, j'ai eu confiance en toi et je t'ai cru. Tu étais ma force spirituelle. Tu m'as conduite à Dieu. J'ai dit, maman, que j'étais un garçon, notre formation, évidemment, comme Irlandais, penchait plutôt un peu du côté catholique. Et je dis, l'Église disait qu'ils formaient un corps, qu'ils avaient tout, que tout ce qu'ils faisaient était juste. Je ne pouvais pas croire cela, parce que les luthériens disaient, nous formons un corps, et nous avons tout. Les baptistes disaient, nous sommes le corps, nous avons tout. Il y en a trop. Il y a environ 900 organisations différentes. Je dis, maman, je ne pouvais placer aucune confiance en cela. Laquelle d'entre elles est juste? Je suis venu à découvrir, je dis humblement et gentiment, mais je crois qu'aucune d'entre elles n'est juste. C'est juste. Je suis revenu à la parole de Dieu. J'ai vu que cela faisait là-bas, dans l'ancien temps. Et alors, ô Dieu, que nous retournions tous là-bas, et avec la faiblesse, et sans le support d'une organisation, sans le support des dénominations, sans le support de l'appareil ecclésiastique, mais dans la simplicité et la puissance du Saint-Esprit qui est tombé à la Pentecôte, avec le même message que Pierre avait le jour de la Pentecôte. Repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. Vous ne serez pas tout harnaché comme un groupe de ces théologiens, avec vos cols retournés et un diplôme de licence S-lettres. Mes frères, vous aurez quelque chose dans la main, et aussi longtemps que l'Esprit de Dieu pénétrera dans cette parole-là, cela vaincra et ramènera ces brebis perdues qui se sont égarées. Amen. Amen. Confessez vos faiblesses, jetez votre doctrine de la divinité, jetez votre je sais tout, votre qualité de membre, dépouillez-vous devant Dieu, spirituellement parlant, et dites-vous indigne. Alors Dieu pourra commencer à vous utiliser. Ne le dites pas seulement de votre bouche, que cela sorte de votre cœur. Jacob, David, ils durent se dépouiller. Il était le plus faible parmi toute la foule. Pensez à peut-être 10 000 ou 100 000 soldats sur la colline, tous entraînés. Chacun d'eux avec un doctorat en philosophie. Chacun d'eux avec des lances. Ils étaient des soldats. Chacun d'eux était caporal un tel, soldat un tel. Même jusqu'au soldat, général un tel, lieutenant un tel, grand général à 4 étoiles, Saül, évêque, oui, monsieur, votre honneur, chacun d'eux se tenait là, des hommes entraînés. Et l'ennemi se tenait sur la colline en disant, vous, bande de lâches. Oh. Et arrive au camp un petit, oh Dieu, un petit gars au visage rose, aux épaules tombantes. Une petite fronde sur son épaule avec une tarte au raisin à la main pour son frère. Et ce géant sortit et poussa son cri une fois de trop. Il dit, vous voulez me dire que vous ici, un groupe de savants érudits, vous tenez là et vous laissez ce philistin circoncis défier la parole du Dieu vivant? Amen. Il dit, avez-vous peur de lui? Saül dit, si tu veux y aller, viens ici, je vais t'envoyer à l'école pour 20 ans maintenant, et je vais t'obtenir un doctorat en philosophie, je vais te dire ce que je vais faire, je vais tout simplement te donner mon diplôme. Il dit, enlevez la chose. Oh là là, je n'ai rien à voir à faire avec cela. Il veut se confier en Dieu. Il dit, je sais ce que Dieu a fait pour moi avec ceci. Et je suis prêt à me confier en Dieu en face de quoi que ce soit avec cela. Amen. C'est l'expérience du chrétien. Même Saul, lorsqu'il dut se débarrasser de son armure, il enleva l'armure ecclésiastique. Il fit comme David. Mais quand Saul arrive à la fin de la route, il dit, j'ai combattu le bon combat. C'était le dernier ennemi à vaincre. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, une couronne est réservée que le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là. Il dit, non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Oh, la mort dit, mais je te rendrai dans quelques minutes. Et la tombe dit, je vais te putréfier là-bas. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Je sais que je suis étendu ici dans ce cachot romain, lié de chaînes, mes poignets, mes mains, et j'ai 39 marques de coups sur le dos. Je suis ici avec des larmes qui me brûlent les yeux, au point que je ne peux plus voir. Je ne peux plus voir avec mon œil naturel, mais je peux voir une couronne de justice qui m'est réservée là-bas.
Amen.
Mes chevilles sont épuisées. J'ai tellement décliné à cause du vieux pain moisi qu'ils ont jeté ici, et les rats ont couru sur moi, et des araignées, etc. Et cela m'a affaibli. Mais ils pouvaient se tenir debout en face de la mort et dire, où est ton aiguillon? Tombe! Où est ta victoire? Avec les chaînes tremblant sur ses mains. Alléluia! C'est ce dont nous avons besoin. Tombe, où est ta victoire? La tombe dit, je vais te faire pourrir, Paul. Il dit, mes grâces soient rendues à Dieu. J'ai déjà remporté la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était faible, ce qui était ecclésiastique en lui, tout son rituel, avait été détaché de lui. Tous ses papiers d'ordination lui avaient été enlevés. Il n'appartenait plus aux assemblées ou à aucune d'entre elles. Voyez, il n'appartenait plus à aucune d'entre elles. Il avait tellement prêché contre elles que leurs évêques disaient, « Voulez-vous dire qu'un homme qui a fait 20 ans dans la prison romaine là-haut peut nous dire de ne pas laisser nos femmes prêcher ?»« Ne nous dites pas cela !» Il disait, « Nous en savons plus que cela. Qu'est ce type là-haut, de toute façon, pour nous dire de faire ceci et cela ?» Il disait, « Nous savons ce que nous faisons. » Oui, disait Paul, il y a des hommes qui se lèveront du milieu de vous, qui commenceront très bientôt une organisation. Ils se lèveront et ils se retireront de la foi comme cela, n'ayant pas l'Esprit de Dieu. Il disait, ils sont déjà sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Et qu'arriva-t-il? Cela arriva directement de l'Église catholique, de la catholique à la luthérienne, et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Les assemblées de Dieu, même chose, faisant la même chose, tout au long la même chose. Mais oh, un homme ou une femme qui est assez faible, qui réalise sa faiblesse, cela permet à Dieu de vous utiliser. Si je continue simplement à parler, je pense que je vais parler trop longtemps. Maintenant, qu'est-ce que c'était? Maintenant, David était le plus ignorant du groupe. Il n'avait pas appris à combattre, il ne savait rien à ce sujet. Il n'avait donc pas d'instruction pour aucune chose de cette bataille qui était placée devant lui. Mais il reconnaissait qu'il y avait un Dieu, et il prit la chose la plus faible. Ils avaient des lances, des armures, des arcs et tout le reste. Et David avait une petite fronde avec une pierre dedans. Mais voyez, il savait en quoi il pouvait se confier. Il confessait sa faiblesse, mais aussi sa foi en Dieu.
Amen.
Il dit, je ne veux pas de bouclier sur moi pour éviter quelque chose. Je ne veux pas monter là-bas et dire, maintenant frère, voulez-vous coopérer avec moi? J'appartiens aux assemblées, j'appartiens aux presbytériens, je suis méthodiste, je suis baptiste. Voulez-vous faire un frère coopérer avec moi? Je ne veux rien de ce fatras. Voici, je vais vous montrer dans ma poche. J'ai mon diplôme, je viens juste d'avoir ma licence S lettres, je suis de telle université, j'ai été instruit là-bas, j'ai obtenu ceci, oh, je sais parler, je suis ceci, cela. Il ne voulait rien de ce fatras. Tout ce qu'il voulait, il dit, j'ai placé ma confiance en Dieu et j'y vais. C'est cela, et le géant s'écroula, c'est juste. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frère, nous avons besoin aujourd'hui d'hommes comme David, pas d'expérience universitaire. Il y avait le petit Miché, le fils de Jimla, pauvre, rejeté, mis à la porte de toutes les dénominations à cause de sa position ferme pour Dieu. Mais voilà qu'arrive un homme de Dieu une fois, là-bas, du nom de Josaphat, et il dit là-bas, je désire connaître la véritable parole de Dieu. Saül dit, j'en ai 400 des meilleurs que tu as jamais connus. Il dit, ils ont tous obtenu leur diplôme, ils ont tous été instruits ici à l'école. Il dit, oh, ce sont les meilleurs prédicateurs que tu as jamais entendus. Il dit, je vais les faire venir tout de suite et nous consulterons le Seigneur pour toi. Mais alors qu'il sortait là-bas, qu'il regardait autour de lui, Josaphat dit, oui, j'ai entendu celui-ci dire cela, et j'ai entendu celui-là dire ceci, mais, dit-il, en as-tu un autre? N'en as-tu pas un autre? Dieu allait apporter un message à ce cœur sincère. Il n'y en avait qu'un parmi ceux qui se tenaient là, mais Dieu avait un homme pour celui-là. Amen. S'il n'y a qu'un cœur sincère, Dieu a un homme quelque part pour lui. Josaphat était vraiment un homme, un roi craignant Dieu. Et il avait assez de bon sens pour savoir que leur message était faux. Il savait que c'était contraire à la parole. Amen. Oh, frère Neville. Josaphat savait cela. Il dit, eh bien, j'ai pris tout le registre, le tableau ici dans ce séminaire. J'ai fait sortir chacun d'entre eux ici. Il dit, eh bien, regarde ici, celui-ci a obtenu. Bien, regarde tous les diplômes qu'il a obtenus. Regarde celui-ci ici, dit-il. Regarde tous les diplômes qu'il a obtenus. Regarde Sédécias ici. Il est à la tête de tout cela. Oh, c'est un évêque. Il est au-dessus de nous tous. Certainement, tu accepteras sa parole. Josaphat dit, oui, il dit, bien, regarde, tout le reste d'entre eux sont d'accord avec lui. Ils sont tous une seule grande unité. Et tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas hébreux. Tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas prophètes. Voici le diplôme qu'ils prouvent qu'ils sont. Josaphat dit, oui, je sais, Akab. Il dit, cela, c'est très bien, mais, il dit, comment vas-tu m'en demander encore d'autres? Voilà mon école toute entière. Il y a là toutes les organisations ensemble. Mais n'en as-tu pas un qui n'appartient pas à ce groupe? N'y en a-t-il pas un quelque part? Bien, qu'est-ce qu'il serait? Il serait un illettré sans éducation. Bien, qu'est-ce que tu voudrais avec un type comme cela? Mais je te demande simplement, n'en as-tu pas un quelque part? Oh, dit-il, oui, il y en a un comme cela. Il y en a. Oh, Dieu merci pour cela. Il y en a un comme cela, mais dit-il, je le hais. Et tout le reste d'entre le hais aussi. Il dit, nous l'avons jeté, ils l'ont jeté à la porte de cette organisation, chacun d'entre eux. Il dit, il est descendu ici pour avoir une réunion, nous l'avons jeté hors de la ville. Oui, monsieur, nous ne devons rien avoir à faire avec lui. Eh bien, dit-il, c'est un faiblard, elle vient d'une famille très pauvre, sa grammaire est horrible. Comme Moody, vous savez, oui, sa grammaire est horrible. Elle dit, réellement, comme théologien, c'est le plus médiocre que j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu quelque chose comme lui. Oh, il démolit tout simplement leur rituel. Oh, leur credo des apôtres est mis en pièces par lui. Je n'ai jamais entendu une telle chose. Oh, il met tout simplement cela en pièces. Et le haïssent, et je le hais. Tout le monde le hait. Oh, dit Josaphat, que le roi ne parle pas ainsi, mais j'aimerais l'écouter. Il savait ce qu'elle y dirait. Il le savait. Dieu passe à côté de tous les grands prédicateurs intellectuels et forts et mit son message dans un petit homme qui proclamait ne rien savoir. Mais que fit-il? Ils lui firent subir un test. Ils dirent, maintenant, tu dis la même chose qu'eux. Il dit, je dirai ce que Dieu met dans ma bouche, c'est tout. Il dit, si tu veux devenir fort maintenant, souviens-toi, tu es en quelque sorte hors du rang ici, garçon. Souviens-toi, tu étais mis à la porte de cette organisation. Ils pourraient reconsidérer l'association avec toi si tu te mets seulement d'accord avec eux en un temps de crise comme celui-ci. Nous sommes tous sur le point d'avoir une grande campagne, dit-il, si tu te mets seulement d'accord avec moi. Il dit, je ne dirai rien que ce que Dieu a dit. Amen. Faire des compromis. Pouvez-vous attendre d'un homme de Dieu qu'il fasse des compromis avec la parole de Dieu? Non, monsieur, n'y comptez pas. Il dit, mais tu es un faiblard, tu es issu d'une famille pauvre, eh bien, tu sais quoi ils peuvent? Je ne me soucie pas de ce qu'ils font. Eh bien, ils te mèneront de pays en pays dans un avion, ils feraient n'importe quoi, tu vois, si seulement tu... Non, non, je dirais seulement ce que Dieu met dans ma bouche. Dieu passe à côté de tout ce groupe, oui monsieur, parce qu'il était resté sincère. Passa à côté des 400 et lui donna le « ainsi », dit le Seigneur. Est-ce qu'ils ont cru? Non, monsieur. Ils ont dit, cela n'est pas le « ainsi », dit le Seigneur. Notre séminaire n'enseigne pas de telles choses. Bien, voici notre évêque. Il a déjà dit la parole. Il a écrit le rituel. Nous nous sommes tous réunis, on fait nos écoles. Dieu est avec nous. Par quel chemin Dieu est-il sorti de nous que il est allé vers toi? Il dit, vous verrez une fois, c'est vrai. Qu'était-il? Il était faible, mais il était le plus fort parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole du Seigneur. Oh frère, quelle différence la fait-il concernant quoi que ce soit d'autre du moment que vous avez le « ainsi », dit le Seigneur. Dites, frère Branham, si vous faites un compromis sur le nom de Jésus pour le baptême, eh bien, nous aurons un grand rassemblement à Chicago ou à ces endroits comme ceci. Vous pensez que vous feriez cela? Je ne me soucie pas de l'endroit où vous vous rassemblez, de ce que vous faites, frère. Restez avec le « ainsi », dit le Seigneur. Je désire que certains d'entre eux viennent me dire où cela est faux. Montrez-moi dans la parole de Dieu où cela est faux. Oui, ils ne s'attaqueront pas à cela. Non, monsieur, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Restez avec cela. Si chacun d'entre eux vous donne des coups de pied, je ne me soucie pas dans quel état de faiblesse vous retrouvez. C'est alors que je deviens fort. Quand il me jette dehors, Dieu me fera entrer. Oui, Dieu, s'il vous jette dehors, Dieu vous fera entrer. Souvenez-vous, Dieu prend toujours le rebut, les rien du tout, puisqu'il en fait des quelqu'un pour lui. Il est possible que cela ne soit pas connu dans cette vie-ci, mais cela le sera dans celle qui vient. Voyez, c'est celle-là. Elle lui donna le ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Il se tenait avec la parole. Il avait le message juste. Dieu lui donna une vision. Le reste d'entre eux n'avait pas de vision. Voyez, il a eu une vision. Pourquoi? Parce qu'il se tenait avec la parole. C'est là que nous voyons des signes et des miracles, parce que les autres prétendent faire cela, mais ils se tenaient avec la parole. Maintenant, dépêchons-nous. Élie, quand son église l'avait mis à la porte, elle avait quitté pour le monde moderne. J'imagine qu'Élie leur avait vraiment dit leurs quatre vérités. Ne l'imaginez-vous pas ainsi? Vous savez ce qu'était Élie? J'imagine qu'au commencement de son ministère, il se levait là-bas et disait, « Pourquoi, vous les femmes, essayez d'être comme la femme du président ?» Ces espèces de bonnets sur elles, vous savez, mademoiselle Jézabel. Vous, femmes modernes, qui ressemblez à la femme du président du pays, qui vous habillez comme elle, qui agissez comme elle, vous, prédicateurs, oh là là, qu'est-ce qu'il les reprit? Elle continua toujours à crier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Il devait arriver à la fin de sa route. Plus personne ne voulait coopérer avec lui. Aucune église ne voulait coopérer avec lui. Toute son église le quitta, retourna au monde. C'est la même chose maintenant. C'est vrai, continuez de retourner au monde. Un très petit nombre seulement se cramponnait, un ici, un là, venant de l'autre côté du pays, où vous deviez aller pour le voir, et ainsi de suite. Il était dans de beaux draps, il est arrivé au bout de son savoir. Il dit, Seigneur, je me suis tenu sur ta parole, j'ai dit la vérité, et ils sont tous partis. Il n'y a personne qui reste ici. Je n'ai personne avec qui causer. Amen. Oui, je me suis tenu sur ta parole, Seigneur, et maintenant, regarde où j'en suis. Pas un d'entre eux ne me recevra. Je vais en ville, ils disent, voici le vieux maniaque qui arrive. Oui, oui, voici ce vieux maniaque qui arrive en ville. Maintenant, il va commencer à crier contre cette manière moderne de vivre ici, et tout le reste. Ne l'ayez pas, pasteur, ne coopérez pas avec ce type. Non, monsieur, le pasteur, maintenant, ce vieux fanatique est revenu en ville. Voyez cet allié là-bas, le vieux gars chauve. Ne prêtons aucune attention à ce vieux bonhomme. Regardez-le, il ne s'habille même pas comme un ecclésiastique, avec ses robes de prêtre comme les miennes. Son chapeau, vous savez, elle se tire en avant et le col retourné, vous savez. Il disait, c'est un grand à part, c'est un drôle de type. Et j'imagine certains des gros types disant, vous savez quoi, c'est un névrosé. Oui, c'est un névrosé, il vit là-bas dans le désert, il reste dans les bois la plupart du temps. Il arrive avec un morceau de peau de brebis enroulé autour de lui, oh là là. Et puis il condamne ses femmes. Je n'ai jamais rien vu comme cela. N'ayez rien à faire avec lui, rien du tout, ne coopérez pas. Bien, l'association des pasteurs s'était rassemblée, vous savez, disant, vous tous, n'ayez rien à, laissez-le aller, il arrivera finalement au bout du rouleau. Laissez-le crier en faire éclater sa propre cervelle. C'est tout, laissez-le tranquille. Mais le vieil Élie, marchant vraiment finalement avec Dieu, restait tout à fait avec la parole. Il avait eu une petite réunion là, en bas. Il avait regardé à travers l'auditoire, disant, vous tous, Jézabel. Oh, l'audace même! Tu n'irais plus jamais écouter cet homme. Non, monsieur, je n'en veux pas. Cela ne l'arrêta pas. Il resta là-bas comme si de rien n'était. Quand il perdit son église, quand toutes les dénominations se tournaient contre lui, c'est alors, quand il devint faible, qu'il dit, je suis resté moi seul. Elle cherche à m'ôter la vie. Il dit, il tirait sur moi s'il pouvait s'en tirer sans peine. Voyez, mais il cherche ma vie. Et je suis le seul qui suis resté, Seigneur. Que puis-je faire? C'est alors, quand il devint faible, et pourtant se donnant fidèle, confessant sa faiblesse et tout, que Dieu dit, monte sur la montagne, je vais te donner un nouveau message. Je vais t'envoyer un nouveau message maintenant. Je t'ai déjà dit, va condamner ces choses. Maintenant, je vais te renvoyer avec quelque chose qui prouve que c'était juste. Il dit, tu as fait un bon travail, Élie. Tu leur as parlé de la femme du président et de tout cela, et comment il faisait. Tu as condamné Akab et tout son moderne fatras, et toutes les églises modernes, et nous avons dit à ces prédicateurs à qui ils appartenaient. Tu étais un exemple, tu t'es tenu là sans aucune aide, sans aucune organisation, rien derrière toi, mais tu es resté avec ma parole. Maintenant, je vais te donner quelque chose. Descends là-bas et dis à cet hypocrite. Ainsi dit le Seigneur. Il n'y aura même pas de rosée qui tombera du ciel jusqu'à ce que je le demande. Là, là, il le prit sur le sommet de la montagne pour lui montrer quelque chose. Oh, je peux le voir ce matin-là, descendant à pied cette route de Samarie. Il n'était pas grand-chose à regarder, c'est sûr. Cette tête chauve, luisant au soleil, des cheveux gris et le visage couvert d'une barbe hirsute, un morceau de peau de mouton. La Bible dit qu'il était poilu, recouvert de poils. J'imagine qu'il était un beau fouillard à regarder. Ce vieux petit bâton à la main, avec ses vieux petits yeux regardant droit vers les cieux, tout en descendant la route à pied. Je pense qu'il se conduisait comme un garçon de 16 ans, alors qu'il en avait à peu près 80. Le voici sur la route, se dirigeant directement vers Samarie. contraire, il avait été rendu fort alors de sa faiblesse. Ma force est suffisante. Ne te soucie pas des organisations, Elie. Ne te soucie pas d'elles. Ma force est tout ce dont tu as besoin. Je me souviens m'être tenu près d'un temple grandiose une fois. Elle dit, Seigneur, j'aurais horreur qu'il vienne dans mon bureau. Il dit, je suis ta part. Voyez, je suis ta part. Dans la faiblesse, alors je suis. Ma force est forte. Ma volonté parfaite peut être accomplie. Paul ou Elie, qui vous soyez, quand vous enlevez du chemin. Voyez, dans votre faiblesse, alors je suis rendu fort. C'est moi, je suis le fort qui vient dedans et remplit complètement. Je peux le voir descendant directement cette route de Samarie, ses petits yeux regardant comme cela, une sorte de demi-sourire sur le visage. Frère, il s'avança directement en présence d'Akab. Il ne bégaya pas du tout, il ne bredouilla pas du tout. Non, non, battant sous cette vieille petite poitrine décharnée, il y avait un cœur avec le Saint-Esprit vivant dedans. Oui, vraiment, il arrive en descendant cette route à pied, il s'avança directement en face d'Akab et dit, « Pas même de la rosée ne tombera jusqu'à ce que je le demande. » Il claqua des talons et faisant demi-tour, il retourna dans le désert. Il dit, « C'était un bon travail, Elie, monte ici. » J'ai commandé à tous les corbeaux de te nourrir maintenant. Assieds-toi un moment ici en haut. Oh là là, quand il fut faible, alors il devint fort. Oui, monsieur, il ébranla les cieux pour qu'il ne plût pas. C'est là qu'il devint fort, quand il perdit son église, qu'il perdit tout ce qu'il avait, tout le reste. Mais il resta avec la parole de Dieu. Alors il eut la puissance de fermer les cieux.
Amen.
Quand Jacob perdit toute sa force, alors Dieu lui donna le pouvoir de devenir un prince. Voyez, quand Paul perdit toute son instruction et toute sa théologie, Dieu fit de lui un missionnaire pour les gentils. Quand Moïse perdit tout de ses capacités et devint faible, Dieu le rendit puissant et l'envoya en Égypte dans la puissance de l'esprit. À 80 ans, une barbe hirsute, sa femme sur un mulet, avec un petit sur la hanche et un bâton à la main, il descendit et vainquit l'Égypte. Oui, voyez, pas avec une armée derrière lui comme il voulait y aller, mais dans la puissance de l'esprit. Amen. Quand vous êtes faible, alors vous êtes fort. Descendant simplement cette route, il ne bredouilla pas, il ne trébucha pas, il ne fit rien. Il s'avança directement en présence d'Akab et dit, « J'ai la parole du Seigneur. » Akab lui dit, « Tu es celui qui trouble Israël. » Il répondit, « Tu es celui qui est en train de troubler Israël. » Oui, monsieur, oh frère, oui, monsieur. Fais sortir ces prêtres intellectuels que tu as par ici et voyons qui est Dieu. Monte sur le sommet du Carmel et que le Dieu qui a répondu à Pentecôte répond de nouveau. Voyons si Dieu est toujours le même Dieu, si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Lorsqu'il descendit de la montagne, il avait un message. Oui, il était devenu vraiment faible auparavant pourtant. Il avait tout perdu avant de faire cela. Il devait devenir faible avant de devenir fort. C'est la simplicité de l'évangile qui confond les gens. Ils essaient d'en faire un grand quelque chose, intellectuel ou autre, alors que c'est la simplicité. Mais Dieu prend l'humilité et la faiblesse et la simplicité comme instrument même pour faire son œuvre. Ce n'est qu'un instrument dans la main de Dieu. Jean-Baptiste, son message, le précurseur de Christ, si simple que cela passa par-dessus la tête des gens. Écoutez juste une minute, j'espère que je ne vous retiens pas trop longtemps, vous qui êtes debout le long des murs. Voyez, regardez, Jean, lorsque tous les prophètes ont rendu témoignage de la venue du Messie, l'un d'entre eux disait que les montagnes sauteraient comme de petits béliers, d'autres disaient les feuilles battront des mains, l'un disait tous les endroits bas seront exaucés et les endroits élevés seront abaissés. Oh là là, quel jour! Est-ce que vous imaginez l'école des prophètes et la conception intellectuelle de cela? Oh là là, ils avaient tout d'une façon si classique. Mais quand cela arriva, du désert sortit un vieux prédicateur qui n'avait jamais été à l'école un seul jour de sa vie. Probablement que sa grammaire était misérable. Son père était prêtre, mais Dieu le retira de cela. Nous avions cela dans la leçon de dimanche dernier. Il ne voulait pas le laisser se mêler à ses dénominations. Et il le prit dans le désert pour le former lui-même. C'est cette sorte-là qui restera avec la parole de Dieu. Il sortit du désert, âgé d'environ 30 ans. J'imagine une barbe noire bien fournie descendant de son visage, un grand morceau de peau de mouton roulé autour de lui. Il se tenait dans la boue jusqu'aux genoux en disant, « Je suis celui dont il a été parlé par le prophète Esaïe. » Et quelques-uns des dénominations sont venus. Il leur dit, « Ne dites pas vous-même, nous avons ceci et cela. De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants Abraham. » Oh là là, pourquoi cela? Il avait le « ainsi dit le Seigneur ». Il avait le message. Dieu avait prédit sa venue. Et la raison, il est venu dans une telle simplicité que cela leur a passé par-dessus la tête. Quand Jésus vint, il dit « qu'êtes-vous allé voir ?» Un orateur intellectuel qui peut se transformer de méthodiste en baptiste, et de baptiste en presbytérien, et de presbytérien en pentecôtiste, et de pentecôtiste en quelque chose d'autre? Êtes-vous allé voir un roseau agité à tout vent? Pas Jean. Il dit, êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux? Il dit, ils sont des palais des rois, cette sorte de pasteur. Il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Il dit, plus qu'un prophète. Jean était plus qu'un prophète. Et voyez, il vint comme le plus humble de tous. Mais il était plus qu'un prophète. Vous savez ce qu'était Jean? Il était un messager de l'Alliance. Certainement il était. Il alla plus loin qu'un prophète. Un prophète est un voyant pour voir des choses. Jean l'a fait aussi, mais il était au-delà de cela. Il était un messager de l'Alliance. Il dit, oui, c'est celui dont il est dit, j'enverrai mon messager devant ta face. C'est cela qu'il était. Il était un messager de l'Alliance, certainement. Par sa simple manière de venir, il a simplement aveuglé les intellectuels. Maintenant, nous devons aller arrêter très bientôt, dans quelques minutes environ. J'ai quelque chose ici que je désire dire. Quelques versets, quelques notes. Et en ce qui concerne la veuve, avec une poignée de farine, elle était parvenue à la faiblesse. Elle en était probablement arrivée à mourir de faim. Elle n'avait pas de farine. Elle ne pouvait aller nulle part ailleurs emprunter de la farine. Personne d'autre n'en avait. Mais elle est arrivée à un point, une grande croyante. Son mari avait été un grand homme de Dieu. Elle était veuve, avec un enfant. Elle avait juste une poignée de farine, mais c'était assez. C'était tout ce dont elle avait besoin. Consacrée dans les mains de Dieu, elle vécut là-dessus pendant 3 ans et 6 mois, sur une poignée de farine. Elle était devenue faible. Elle sortit ce matin-là pour ramasser 2 morceaux de bois, les casser, les mettre ensemble. Voyez, les 2 morceaux de bois, c'est la croix. Voyez, brisée, elle dit, je vais ramasser 2 morceaux de bois. N'a jamais dit, on prend une brassée. Non, juste 2 morceaux. C'est cela, voyez le symbole? Eh, oui, l'ancienne manière, la manière d'allumer un feu, c'est de prendre des bûches, et de les croiser, et de les faire brûler juste au milieu. Quand je vais camper dans les montagnes pendant la nuit pour me préserver du froid, je pose une bûche comme ceci et une autre comme cela. Et pendant la nuit, je continue simplement à pousser les bouts vers le haut. Et cela brûle comme cela, tandis que vous montez, voyez, juste en travers de la croix. Je vais prendre 2 morceaux de bois, je vais apprêter cette farine, cette petite poignée de farine, et faire un gâteau pour moi et mon fils. Nous le mangerons et nous mourrons. Elle était réellement de la faiblesse, n'est-ce pas? Elle dit, et elle se retourna et commence à rentrer. Oh, ce matin brûlant! Oh, il y avait alors si longtemps qu'il n'y avait rien eu. Tout, pas d'eau. Et les gens criaient. Les gens mouraient partout. On ne pouvait emprunter nulle part. Il n'y avait rien à faire. Elle était à la fin de sa route. Elle était dans la faiblesse. Elle dit, je vais préparer cela pour moi et mon fils. Puis nous mangerons et mourrons. Elle se retourna donc. Elle dit, juste 1 minute. Elle regarda derrière elle. Et il y avait cette vieille face touffue qui pointait à travers la barrière là-bas. Il lui dit, va faire un petit gâteau pour moi d'abord et apporte-le-moi. Oh, va me chercher un peu d'eau dans ta main et un morceau de pain, car ainsi dit le Seigneur. Oh là là, c'est cela qu'il fallait. Oh là là, ce petit peu qu'elle avait. Voyez, elle le consacra à Dieu. Ce fut assez pour la nourrir le reste du temps. Oui, quand elle était faible, alors elle était forte. Une autre avait juste un vase avec un peu d'huile dedans. Elle n'avait rien, ses 2 fils allaient être vendus comme esclaves. Il n'y avait rien d'autre qu'elle pouvait faire avec ce petit vase d'huile. Ce n'était pas beaucoup, elle était à la faim. Elle lui dit, qu'as-tu dans ta maison? Elle dit, juste un peu d'huile dans un vase. Il dit, va chez tes voisins, emprunte-en beaucoup. Là, regardez, se préparez avant même que cela arrive. Préparez-vous! David a entendu ce bruit dans les mûriers. Élisée avait un nuage qui avait seulement la grandeur d'une main. Elle dit, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Si Dieu peut seulement avoir des vases vides. C'est juste. Il dit, remplissons la maison. Amen. Vous voyez ce que Dieu veut? Dieu doit avoir des vases vides. Écoutez, nous avons eu tellement de doctrines, tellement de non-sens ecclésiastiques, que nous sommes arrivés au fond du tonneau. Il n'y a plus qu'une chose à faire, se tourner vers Dieu et sa parole. Amen. Est-ce que vous voulez faire cela? Ayez des vases vides. Enlevez-en tout ce qui est méthodiste, enlevez-en tout ce qui est pentecôtiste et tout le baptiste, et laissez-les simplement être des vases, et placez-les dans la maison. Puis prenez de ce vase-ci, et commencez à verser. Amen. Commencez simplement à verser. Elle lui a fait pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants et tout le reste et régler toutes les dettes. Pourquoi? Pourquoi? Juste le peu qu'elle avait, elle le consacra à Dieu. Et en suivant la parole de ce prophète, elle s'en est bien sortie. Oh, Dieu, envoie-nous un prophète qui prendra la parole de Dieu, qui ne prendra pas quelque chose d'autre, mais qui aura simplement des vases vides. Si Dieu peut simplement avoir des vases vides, puis prendre la parole de Dieu et la verser dans la personne. Pas quelqu'un qui dit, oh, j'ai tremblé quand je l'ai reçu, j'ai parlé en langue quand je l'ai reçu, j'ai dansé dans l'esprit. Oubliez cela, voyez, oubliez cela. Restez simplement là jusqu'à ce qu'il vienne, c'est tout, jusqu'à ce que le vase soit rempli. C'est cela, c'est comme cela que vous faites. Oui, monsieur, la simplicité de cela, les vases furent remplis. Combien nous pourrions nous arrêter là-dessus? Il y eut les disciples, tout décontenancés un jour. Jésus leur dit, il y a 5000 personnes ici. Elle dit, les forces leur manquent, ils meurent de faim. Oh, je pourrais m'arrêter là-dessus pendant encore une heure. 5000 qui meurent de faim. Et il y en a 100 milliards qui meurent de faim. Ils dirent, renvoie-les. Il dit, il n'y a pas besoin de faire cela. Il dit, nourrissez-les vous-même. Oh là là, je peux les imaginer en train de ramasser tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et vous savez, quand ils eurent tout ramassé, quelque chose, ils rassemblèrent tout et dirent, maintenant voici, nous sommes allés à travers le camp tout entier. Nous n'avons pas un centime, donc nous ne pouvons pas avoir la campagne. Vous voyez, ainsi nous avons tout rassemblé ici, mais la seule chose que nous avons pu trouver, c'est juste 5 petites galettes de pain et 2 petits poissons d'un petit bout d'affaires, comme David, qui est sorti du désert là-bas. C'est tout ce que nous avons trouvé, c'est tout ce que nous pouvons avoir. Nous ne savons plus de quel côté nous tourner, nous ne pouvons rien faire d'autre, Jean. Pierre disait, c'est tout ce que nous pouvons faire, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne savons plus de quel côté nous tourner, c'est la seule chose que nous avons obtenue au point de vue de nourriture. Eh bien, je peux juste prendre un petit verset, Actes 2, 38, et c'est tout ce dont nous avons besoin, juste obéir à cela. N'ayez pas à prendre dans des séminaires tout ce qui concerne ceci, encore cela. Prenez simplement cela, oui, prenez simplement cela, c'est tout ce dont vous avez besoin. Repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, et vous serez remplis par l'huile. Voyez. Videz-vous simplement, préparez-vous pour celle-là, c'est tout ce dont vous avez besoin. Mettez simplement une goutte dedans et regardez-le se remplir. Vous savez, il y en avait à peine assez dans ce vase-là pour que ça fasse une goutte dans chaque autre. Elle a peut-être pris son doigt comme ceci, juste laissé tomber une goutte dans chacun comme cela, elle regardait et c'était plein. Juste laissé tomber une goutte, voyez, c'est tout ce qui est nécessaire, parce que c'était de l'huile bénie. Ne prenez pas quelque expérience de séminaire, prenez la parole de Dieu et laissez-la tomber là-dedans. Voyez comment cela se remplirait. Il disait, eh bien, quelle sorte de goutte devons-nous fabriquer? Peut-être pouvons-nous sortir quelque chose des psaumes. Vous prenez ce que je vous ai dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous serez remplis à partir de cette goutte-là. Laissez simplement tomber cette goutte-là dedans. Et vous serez remplis à partir de cette goutte. C'est la goutte que Pierre a utilisée le jour de la Pentecôte. C'est la goutte que Paul a utilisée. C'est la goutte que tous les disciples ont utilisée. Le restant sera ajouté. Vous prenez simplement cette goutte-là. Et vous suivez cela jusqu'au bout. Et le reste ira très bien. Devenez faible, devenez vide, videz-vous complètement et à partir de ce moment-là, il va tomber des gouttes et Dieu fera tomber le reste. Vous faites simplement cela, vous tombez sur vos genoux et vous recevez cela de tout votre cœur. Tombez dans votre cœur maintenant même et dites, oh Dieu, je crois cela de tout mon cœur. Dieu s'occupera du reste des gouttes, ce sera complètement rempli, vous serez à nouveau rempli du Saint-Esprit. Maintenant, ils avaient 5 petites galettes de pain et 2 poissons. Qu'allaient-ils faire? Ils s'approchèrent donc et dirent, c'est tout ce que nous avons pu rassembler. Nous ne savons plus de quel côté nous tourner. Nous ne pouvons trouver un autre morceau de pain nulle part. Il n'y a personne. Et ce petit garçon a probablement fait l'école buissonnière et est parti pour l'école ce matin, a manqué l'école et est allé pêcher par ici. Et nous l'avons pris là au bord du ruisseau. Il venait écouter. Et là, il en a 5. Merci Seigneur pour ce petit garçon. Oui, monsieur, ils dirent, la seule chose que nous ayons pour vivre est cette toute petite goutte ici. Ils dirent, Jésus dit, c'est suffisant, apportez-le ici. Voyez, apporte-le ici, donne-le-moi. Donnez-moi cette petite goutte, je prendrai soin du reste. Maintenant, vous allez juste faire la distribution au fur et à mesure que je vous donne de cette goutte. Et que chacun d'entre vous prenne la goutte d'acte 2.38 ce matin dans son cœur. Et prenez simplement de là. Et voyez-le commencer à rompre pour vous le pain de vie. Repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et alors, voyez si le Saint-Esprit ne se met pas à tomber goutte à goutte. À tomber goutte à goutte. Sur ceci et sur cela. Et ici et là et encore là. Il y aura un remplissage du Saint-Esprit. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des séminaires. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent. Mais pas être intelligent. La seule chose que vous avez à faire, c'est de reconnaître que vous ne savez rien. Laissez Dieu se saisir de vous. Il prendra soin du reste. Très bien. Alors la voix dit, apportez-les ici. C'est ce que Dieu désire ce matin. Qu'on lui apporte un groupe de vases vides, il prendra soin du reste. Oui, monsieur. L'aveugle Bartimée, assis près de la porte de la ville, en haillons, au froid. Oh, c'était son moment de plus grande faiblesse. Que tu entends une voix disant, amenez-les ici. C'est vrai, c'est parfois lorsque vous êtes le plus faible. Il y avait Marie au tombeau, le cœur brisé. Son bébé, son garçon avait été tué. Tout le désespoir était parti. Elle alla pour l'embaumer, et même son corps n'était pas là. Elle entendit une voix dire, « Pourquoi pleures-tu, femme ?» Elle dit, « Ils ont porté mon Seigneur, et je... » Pauvre petite chose, c'était son enfant qui avait été déshonoré. Il l'avait dépouillé de ses vêtements, et complètement nu, l'avait pendu là sur une croix. Elle l'avait crucifié, elle l'avait cloué là-haut, après qu'il avait affirmé être le Messie. Après qu'il eut su que le Saint-Esprit l'avait couvert de son ombre et avait fait venir cet enfant, c'était l'enfant de Dieu, il avait vu ses œuvres et tout, et juste au moment de plus grande faiblesse. Et là, Jésus s'était élevé contre le mal, s'était élevé contre ses organisations, s'était élevé contre ses pharisiens. Et il était devenu faible et s'était soumis jusqu'à la mort. Et il était mort comme un pécheur sur la croix, portant nos péchés. Les psaumes même, les prophètes même, dans lesquels ils croyaient, avaient cité plusieurs centaines d'années auparavant les mots même qu'ils disaient au calvaire et ne le virent pas. « Mon Dieu, disait David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22. « Tous mes os, ils me regardent, aucun de n'est brisé. Ils secouent la tête et disent, il s'est confié dans les autres, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Et toutes les choses que les prophètes avaient dites étaient justement là. Et Jésus, mourant, tenant ferme cette parole, s'est soumis. Dieu, Emmanuel, devint si faible qu'il se soumit à la mort. À la tombe et son âme au séjour des morts. Faiblesse, mais de cet abandon complet, il surgit en ce matin de Pâques, se frayant un chemin depuis les lieux les plus bas. Il était le plus haut et devint le plus abaissé. Il vint vers les gens les plus bas, alla dans la ville la plus basse, et le plus petit homme de la ville dut le regarder d'en haut. Il alla de là à la mort, et de la mort à la tombe, et de la tombe au séjour des morts, jusqu'au plus bas qui pouvait être atteint, jusqu'à l'enfer le plus bas qu'on puisse imaginer. Il alla jusque-là, mais alors depuis là, Dieu commence à le relever. Par le paradis, de là-haut, au tombeau, et du tombeau à la gloire, et si haut qu'il doit abaisser ses regards pour voir le ciel. Il a élevé son trône dans le ciel. Ses petites mères au cœur brisé, ne sachant pas ceci, se tenaient là. Ils ont porté mon Seigneur, et je ne sais pas où. Elle était à l'heure de la plus grande faiblesse qu'il avait jamais eue. Son Seigneur était parti, il l'avait crucifié, pourtant il laissa seul, il les laissa le crucifier dans la honte en le pendant là, nu devant ses gens. Et on lui avait donné un coup de lance dans le côté, elle saignait, on l'avait entendu crier sur la croix, et vu la terre trembler, les cieux tout entiers reconnaître qu'il était mort. On l'avait descendu raide et froid et mis dans la tombe. Elle pensait, les derniers égards que je peux rendre à mon enfant bien-aimé, c'est de venir l'embaumer, maintenant ils l'ont emporté. Elle se tenait là, pleurant, cette petite mère se tenait là, pleurant, sanglotant. Oh, le moment de plus grande faiblesse. Femme, pourquoi pleures-tu ? Lui dit la voix derrière elle. Elle pensa que c'était le gardien du cimetière. Elle dit, oh, ils ont emporté. Elle ne pouvait même pas se retourner, tellement elle était faible. Elle dit, j'ai été debout maintenant pendant ces 3 jours et nuits. Je suis resté à regarder la crucifixion. Je regardais mon propre bien-aimé, que je savais être le Fils de Dieu. Je sais qu'il l'était. Pourtant, il, regardant de l'autre côté, lui derrière, et l'ont emporté, et l'ont crucifié. Je l'ai vu ressusciter les morts de la tombe. Je l'ai vu faire miracle après miracle. Et je sais que le Saint-Esprit, Dieu connaît mon cœur. J'étais innocent de quoi que ce soit, et le Saint-Esprit m'a donné ce bébé sans que je connaisse un homme. Combien je sais que c'était vrai, et je l'ai vu déshonoré, on lui a arraché ses vêtements, et on l'a pendu là, le clouant sur le bois. Il est mort de la plus horrible mort. Je l'aime, je ne m'occupe pas de ce qu'ils lui ont fait. Je désire malgré tout l'enterrer. Je désire lui donner un enterrement convenable. Et l'ont emporté, cela fait plusieurs jours que mon cœur est brisé. Je me tiens là dans cet état. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de mon Seigneur. Il dit, Marie, et alors elle était forte.
Amen.
Amen. Va dire à mes disciples que je les rencontrerai en Galilée. Oh là là, dans leur faiblesse, ils furent rendus forts. Quand vous êtes faible, c'est alors que vous devenez fort. Pierre, Après qu'il fût sorti pêcher là-bas, c'était son métier de pêcher. Sébastien, son métier. Il était donc sorti pêcher, tout découragé, sachant qu'il avait renié Christ. Oh là là, entendre ce prophète se tenir là, lui dire, Pierre, est-ce que tu dis que tu m'aimes? Il dit, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, je t'aime, je suis prêt à mourir pour toi. Il dit, Pierre, tu penses que tu es sincère, mais tu me renieras trois fois avant. Tu me renieras avant que le coq chante la troisième fois. Tu vois, tu me renieras trois fois avant que le coq chante. Et alors, il a vu cela arriver, quand il se tenait là et dit, je ne le connais pas. Non, je ne sais rien au sujet de ces pentecôtistes. Ce n'est pas le moment d'arrêter de prêcher. C'est juste la sonnerie de ma montre qui s'est fait entendre. Vous voyez, il disait que je sais que je devrais arrêter maintenant, mais je ne peux pas m'arrêter juste en ce moment, vous voyez. Donc, je dois terminer ceci. Il disait, je sais que je l'ai renié. Je l'ai renié en présence de Pilate. Je l'ai renié en présence de cette petite femme qui est venue vers moi en disant, n'es-tu pas l'un d'entre eux? Non. Et j'ai même juré. Oh, il était dans un état terrible. Il disait, il l'avait renié. Et il avait vu Jésus se tenant là et le regardant. C'est-à-dire que le coq chanta, il jeta un coup d'œil vers Pierre, puis il est sorti. Oh, il était découragé avec lui-même. Il disait, pourquoi est-ce que je vis encore? Et alors en plus de cela, il dit, je pense que je vais retourner aller de nouveau pêcher. Je ne peux plus prêcher. Je vais donc simplement m'en retourner et commencer à pêcher. Il avait lancé ses filets et les avait jetés toute la nuit durant, sans attraper de poisson. Et il était à un point de faiblesse. Il n'avait rien. Découragé avec lui-même, arrivé au bout de ses capacités. Oh, il pensait qu'il était un grand homme. Il avait tranché l'oreille du fils du grand prêtre comme cela. Il pensait qu'il était un grand gaillard, vous savez. Il avait appris quelque chose, mais il ne savait rien. Il avait oublié tout cela. Il était là-bas disant, « Eh bien, je sais une chose, je suis un pêcheur. Je peux encore gagner de quoi vivre en pêchant. » Il jeta le filet toute la nuit et n'attrapa rien. Oh, quel découragement! Chaque fois qu'il retirait, il trouvait un filet vide. Et il était si découragé. Il était au point le plus bas. Il disait, je ferais simplement tout aussi bien de sauter de cette barque. Je suis plus bon à rien de toute façon. Il dit, avez-vous attrapé du poisson, les enfants? Ils regardèrent sur le rivage et il y avait là un homme. Il dit, non, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien pris. Je pensais que j'étais un pêcheur. Est-ce toi, Simon? Oui, eh bien, j'ai travaillé dur toute la nuit, je n'ai rien pris. Oh, nous n'avons pas de poisson par ici. Il dit, eh bien, jetez votre filet de l'autre côté. Nous avons fait. Quoi? Puis il dit, de l'autre côté, nous l'avons fait. Jetez-le de l'autre côté. Il lança ses filets et il tira. Il dit, alors il devint fort. Oh là là, il empoigna son vieux manteau de pêcheur et le mit autour de lui en disant, frère, c'est lui. Il dépassa tous les autres, arrivant sur le rivage, avant qu'ils le puissent, eux qui ramaient dans leur barque aussi vite qu'ils le pouvaient. Il les dépassa à la nage, avec un manteau de pêcheur sur lui, arrivant au bord. Pourquoi? Quand il était fort, il n'avait rien pu faire. Mais quand il devint faible, alors il devint fort. Oui, monsieur. Oh, la stratégie de Dieu est de prendre des vases humains vides et d'ébranler le monde avec eux. Maintenant, juste un petit moment, et nous partirons. Comme à la Pentecôte. À la Pentecôte, qu'a-t-il fait? Cela leur a pris 10 jours pour être complètement vidés. Mais ils se tenaient tous là avec leurs vases tournés vers le haut. Et Dieu se prit lui-même et les remplit complètement. C'est tout. Ils ébranlèrent le monde. Il s'était versé lui-même en eux. C'est le besoin d'aujourd'hui. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce sont des vases vides. Oui, monsieur. Pour que Dieu puisse les remplir complètement. Et vous ne pouvez pas les prendre. Je dois en sauter beaucoup ici. Dieu ne peut pas les utiliser aussi longtemps qu'ils sont déjà remplis. Si vous êtes plein d'une formation théologique, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu doit avoir des vases vides pour qu'il puisse les remplir. Maintenant, il n'a pas dit, va chercher des vases et en prendre beaucoup d'huile, et nous verrons si nous pouvons en tirer un bon prix, et en la vendant un peu plus cher, tu peux rembourser le voisin comme cela. Il dit, prends seulement des vases vides. C'est tout ce qu'il te faut. C'est ce qu'il y avait à la Pentecôte. Ils avaient des vases vides pour que Dieu puisse les remplir. Frère, ce jour-ci exige cela. Ce jour doit avoir cela. Nous aurons cela ou nous périrons. Je vais terminer maintenant. Écoutez, nous devons avoir cela ou périr. Oui, monsieur. Les grands appareils ecclésiastiques que nous avons, les grands appareils d'église, sont tout calaminés. Il y a un cognement spirituel en eux. Frère Collins est quelque part ici, et frère Irgerson. Je pense que le vilebrequin est mauvais. Quelque chose ne va plus. Ils utilisent la mauvaise sorte d'essence. Tout est calaminé. Ils ont utilisé une expérience de séminaire au lieu du Saint-Esprit. Nos grands réveils du pays, nos grands hommes, nos campagnes de guérison, tout a échoué. Nous le savons. Regardez notre noble évangéliste Billy Graham. Il a parcouru la nation de long large, de long large, de long large. Quel bien cela a-t-il fait? Oral Roberts, des campagnes de guérison partout, et cela devient toujours plus mauvais. Pense que c'est tout, baptiste, presbytérien, assemblée de Dieu, toutes les autres organisations différentes. Il les rassemble toutes. Qu'est-ce que c'est? Un énorme appareil ecclésiastique. Et Dieu a complètement rempli cela de calamine pour vous. Maintenant, il ne fait plus que tousser. Tchoc, pom, 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 tchoc, pom, pom, pom. Un peu ici, un peu là. Il n'en peut plus. Il est fini. Laissons ça couler. Vous avez versé de l'eau dedans. Tout est parti. Oui, monsieur, les pneus à plat des deux côtés. Nous sommes dans une terrible situation. L'appareil ecclésiastique s'est arrêté. Et frère, le couvercle de l'enfer a sauté. C'est vrai. Et des fleuves de puissants démoniaques affluent de partout. Cela a conquis les nations. Cela a conquis la politique à tel point qu'elle est pourrie jusqu'au cœur. Cela a conquis les églises jusqu'à ce qu'elles ne connaissent rien d'autre que la dénomination. Vous dites, êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Cela n'a pas plus de signification, comme je le disais l'autre jour, que d'être un cochon ou un porc ou un cheval ou quelque chose comme cela. Cela n'a rien à voir avec cela. Vous êtes un chrétien quand vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Pas avant cela, et que vous êtes entièrement soumis à l'Esprit. Si vous n'êtes pas soumis à l'Esprit, alors vous n'êtes pas né de nouveau et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez parler en langue et frissonner, sauter, courir, et faire toutes sortes de... Paul disait, je peux transporter les montagnes par la foi, je peux guérir les malades, je peux avoir la connaissance de la Bible, je peux aller dans un séminaire et apprendre tout ce fatras, tout. Il disait, pourtant je ne suis rien. Alléluia. Oh là là, vous parlez d'un couvercle qui a sauté de la bouilloire, des démons de toutes parts, des puissances du diable, sous le nom de christianisme. Enseignons pour doctrine des commandements d'hommes, des doctrines théologiques de séminaire, abandonnant la Bible. Alléluia! Qui est capable, qui est assez fort, qui est assez sage, qui est assez puissant pour mater cette lésion, qui dépouille nos femmes de leurs vêtements. Au nom des prédicateurs méthodistes, baptistes et même pentecôtistes, elles se fardent de visage comme Jézabel, elles se font couper les cheveux à la nuque et portent des pantalons tout comme les hommes. Nos prédicateurs, ils n'ont pas suffisamment d'allant pour le leur dire. Possédés du diable, c'était la lésion qui lui avait arraché ses vêtements. Qui est ce démon rugissant? Qui est assez fort? Quelle sorte de dénomination est capable de vaincre celui qui se promène de long large à travers ces pierres tombales de dénomination criant « Les jours des miracles sont passés et nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit » Qui peut mater ce démon? Dieu, nous ne pouvons pas le faire par la dénomination. Nous ne pouvons pas le faire avec les forces ecclésiastiques. Mais il y a une foi qui fit cela. Amen! Qui mata ces démons, les rendit sains d'esprit et leur mit des vêtements. Cette même voix nous a donné une promesse. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous ne ferez jamais avec de l'essence ecclésiastique dans une voiture calaminée. Vous ne ferez jamais dans une organisation. Vous le ferez quand vous vivrez complètement et que vous deviendrez faible et que vous révolterez tout de vous-même et que vous laisserez le Saint-Esprit entrer et secouer chaque partie de votre être, saturer chaque opercule de votre corps. C'est la seule façon de faire cela. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle organisation. Ce dont nous avons besoin, oh Dieu, je le sens se déversant autour de nous, par ici maintenant. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un prophète de Dieu qui se lève avec un coup de foudre de Dieu, un éclair spirituel qui plongera ce monde dans la honte. Alléluia, des vases vides, c'est ce dont il a besoin. C'est juste une église appelée dehors, la petite minorité qui recevra la puissance et les bénédictions de Dieu et son message. Alléluia! C'est de cela que nous avons besoin. Devenez faible afin de pouvoir devenir fort. Cela vaincra tout démon. Cela rendra les érudits honteux. Cela attirera les hommes et les femmes que Dieu a appelés. Et cela seulement. Souvenez-vous, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 8 âmes furent sauvées. Au jour d'Élie, il y en avait seulement 7000 qui l'avaient. Oh, pensez simplement au temps où nous vivons maintenant. Quand Jean arriva sur la scène, la petite église était certainement dans la minorité, mais il y avait des vases vides dans lesquels verser l'huile. Alléluia. Oh Dieu, que nous nous vidions complètement. Videz-vous, mes amis, devenez faibles, reniez votre propre capacité. Et vous, dehors à la radio, pas dans la radio, mais dehors dans, qui écoutez ces bandes, où qu'elles arrivent, videz-vous, déversez-vous sur l'autel de Dieu comme un sacrifice. Que l'ange vienne avec un charbon de feu remplir ce vase de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Alors il vous rendra fort, il vous donnera la grâce de tenir. Inclinons nos têtes une minute. Ô Seigneur, un autre dimanche matin s'est écoulé. Et nous avons été assis dans cette assemblée solennelle, où des hommes et des femmes te connaissent, où ton esprit habite dans leur cœur. Elles te croient et ont agi selon chaque parole que tu nous as donné la commission d'accomplir. Et nous te remercions pour ces gens. Elle peut y en avoir d'autres d'or dans le pays où ces bandiront. Où des hommes et des femmes humbles les prendront dans leurs maisons et dans les tribus et au dehors dans les autres pays. Et qu'ils puissent entendre, Seigneur, et comprendre, se vider complètement de sorte que le Saint-Esprit puisse les remplir complètement. Il peut y en avoir ici même ce matin, Seigneur, qui se sont complètement vidés depuis que nous avons commencé à parler, qui ont réalisé qu'ils se sont trop confiés dans leurs propres pensées, en eux-mêmes, leur propre capacité, se confiant dans la finesse de leur simple esprit humain, qui n'est rien que de la corruption devant Dieu. Ô Dieu, qu'ils se vident simplement maintenant, qu'ils se soumettent humblement et qu'ils viennent pour être remplis de l'Esprit. Accorde-le, Seigneur. Il est dit dans la Bible, tous ceux qui crurent furent baptisés. Ce matin, dans ce bâtiment, Père, il y a une petite femme, assise ici tout au fond. Et je me souviens d'une Madame X qui est venue vers moi un soir, elle était tendue là, n'étant rien d'autre que des os, elle avait que la peau sur les os, le cancer l'avait toute rongée. Son mari n'était pas encore un chrétien, et je me souviens de la prière que j'ai priée cette nuit-là. Oh Dieu, tu as envoyé le petit David après un lion avec une simple petite fronde, et l'a ramené l'agneau. Je dis, ce cancer a attrapé ma sœur, c'est un démon. Je sais que tu es Dieu. Je t'ai vu, Seigneur, et je sais. J'ai parlé avec toi, et tu as répondu. Je viens à la recherche de la brebis de Dieu. Cancer, tu la laisses partir. Puis je lui ai ordonné au nom de Jésus-Christ d'aller à la maison. Et son mari, qui ne s'était pas encore abandonné, crut cette parole et ramena sa femme à la maison. Elle est ici ce matin, une femme vigoureuse et en bonne santé. Le cancer est parti. Elle va se faire baptiser ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour ce vase vide, prêt à être rempli. Oh Dieu, je te prie de bénir cette âme. Seigneur, c'est simplement un exemple parmi beaucoup d'autres. Je demande que des bénédictions se posent sur cet auditoire, solennellement. Oh Dieu, solennellement. Si il reste seulement une chose, Père, que je puisse voir, c'est que ou bien tu te lèves quelque part avec des vases vides et rends ce monde honteux de lui-même, ou bien tu envoies Jésus très rapidement. Car voici la fin, Seigneur. Il ne reste plus que deux choses à faire et nous devons le voir sur le champ, car nous savons que c'est la fin. Ou bien nous verrons quelque chose de puissant se lever sur le champ, ou bien nous verrons la venue du Seigneur. Toute prophétie est accomplie. La dernière chose, avant que l'Église soit ressuscitée, avant qu'elle soit enlevée, dans le troisième chapitre de l'Apocalypse, c'est la venue d'un messager pour l'âge de l'Église de Laodicée, qui ramènerait le cœur des gens au premier Père. Les ramènerait à la Pentecôte normale, ce qu'ils prétendent avoir. Et il y en aurait des milliers de milliers, comme cela arriva au temps de Noé, Seigneur, qui seraient perdus. Beaucoup d'entre eux seraient perdus. Nous voyons cela déjà accompli, Père. Viens, Seigneur Jésus, emporte ton Église. Et si c'est ta volonté, Seigneur, juste avant que cette Église soit enlevée, que la puissance se lève. Ô Dieu, remplis ces vases. Lève-les, Seigneur. Ébranle ce monde une fois de plus. Nous savons que ce sera trop tard. Il n'y aura pas de repentance. Ce sera alors trop loin pour eux. Mais montre ta puissance, Seigneur. Remplis ces vases et secoue ce monde comme il n'a jamais été secoué auparavant. Prends ton Église ensuite. Laisse le monde dans le chaos où il se trouve. Oh Dieu, il lutte. Et ensuite, nous savons que le grand Saint-Esprit viendra alors aux Juifs. Quand nous avons vu les 144 000 se tenant sur le mont Sinaï avec l'agneau, mais l'épouse était déjà au ciel. Elle avait déjà été enlevée et l'agneau était revenu, Joseph, pour se faire connaître à son peuple. Et la Bible dit qu'il y aura un déchirement parmi eux lorsqu'ils regarderont et le verront se tenant là. Quand ils se feront connaître, ils diront « Où as-tu ces cicatrices ?» Il répondra « Dans la maison de mes amis. » Et alors ils diront « C'est lui que nous avons crucifié. » Et il dira comme Joseph a dit « Ne vous tourmentez pas, parce que Dieu a fait ceci pour sauver la vie aux gentils. » Ce n'était pas votre faute. Et alors, il est dit qu'ils se sépareront, une famille à part de l'autre, et qu'ils se lamenteront comme si le Fils unique avait été ôté du foyer. Ô Père, ce jour est proche. C'est la fin de ces 70 semaines. Et le temps est proche, Seigneur. Ô Dieu, que la voix des vrais prophètes de Dieu, crie contre cette dame moderne de ce jour. Cette Église moderne, cette théologie moderne de l'Église, secoue ces prédicateurs qui ont peur de dire la vérité. Ô Dieu, prends ces hommes et secoue-les comme jamais auparavant. Rends-les honteux d'eux-mêmes. Mais nous savons cette chose et nous pouvons nous reposer dessus avec une pleine confiance que personne ne viendra si le Père ne l'attire. Et tout ce que le Père a donné viendra. Ils iront simplement jusqu'au point où tu as décidé qu'ils aillent. Mais tu as dit, ne crains pas, petit troupeau, car ton Père a trouvé bon de te donner le royaume. Nous savons que c'est vrai. Tu nous as prévenus tout au long qu'il n'y en aurait seulement que très, très peu qui seraient prêts quand ce temps viendrait. Alors il y aura une grande résurrection, et tous les rachetés qui ont été rachetés à travers les âges se lèveront. Mais en ce dernier jour, juste à la fin des temps, là, l'Église sera certainement dans la minorité. Ainsi, nous voyons cela, Père. Nous voyons le message du jour. Nous le voyons rejeté. Nous voyons les désunions. Nous voyons toutes ces choses. Nous voyons ton peuple confesser qu'ils ne sont rien. Ils désirent seulement être remplis de toi, Seigneur. Maintenant, je demande que tu ébranles le monde avec eux, juste quelques jours avant la venue du Seigneur. Maintenant, au milieu de nous, il y a la maladie. Il y a des personnes qui ont besoin d'une guérison physique. Nous ne voudrions pas les oublier, Seigneur, car il a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nous demandons que son grand pouvoir de guérison soit sur chacun de ceux qui sont ici. Si tu peux sauver une âme là-bas, sans faire un geste, quelqu'un dont seulement le cœur s'est tourné vers toi, à combien plus forte raison peux-tu guérir encore? Voici des mouchoirs posés ici. Je les bénis au nom du Seigneur Jésus, comme fit le grand apôtre Paul. Que quiconque porte ces mouchoirs soit guéri. Que les foyers brisés soient rétablis. Que les petits-enfants, sans père, sans mère, eux étant séparés, que ce foyer soit de nouveau uni. Accorde-le, Seigneur. Guéris tous les malades maintenant et les affligés. Reçois en toi-même la gloire. Et Seigneur, nous qui essayons de garder nos vases levés, nos yeux levés, nos cœurs levés vers toi, nions même être associés à ce monde. La Bible dit qu'Abraham sortit de sa maison, sortit de sa ville pour séjourner dans le pays de la promesse, confessant qu'il n'était pas de ce monde, mais qu'il était un pèlerin et un étranger. Abraham et Isaac et Jacob, tous ceux qui ont le témoignage qu'ils ne sont pas de ce monde, ils déclarent simplement qu'il y a une ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu, et qu'ils vont dans cette direction. Que les cœurs soient changés tout de suite pendant que je prie, Père. Que les dispositions soient prises, et quand le service de baptême aura lieu, qu'il y ait un tel mouvement parmi les gens, qu'il y ait des gens qui n'avaient jamais pensé à cela auparavant, que cela leur soit révélé. Et tu as dit que tous ceux que tu as appelés, tu les enverrais. Maintenant, je te remets tout cela, Seigneur, avec ce petit message tout haché d'un pauvre vase avec rien dedans, Seigneur. Je te prie de prendre simplement ces paroles et de les faire fondre dans le cœur des gens et qu'ils ne puissent plus jamais s'éloigner de cela. Accorde-le, Seigneur. C'est à toi que je le remets maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Un frère donne un message. Pendant que vous prenez votre décision, vous décidez, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Vous avez entendu ce qu'il a dit. Si Dieu est Dieu, servez-le. Si le monde est Dieu, continuez seulement. Voyez? Si la manière dénominationnelle est juste, continuez avec elle. Mais si la Bible est juste, alors venez à elle.
Amen.
Voyez, choisissez en cette heure qui vous voulez servir. Simplement dans l'esprit, chantons un cantique maintenant. La Bible dit, ils chantèrent un cantique et sortirent. Chantons ce fameux bon vieux chant, je l'aime, avec notre tête et nos cœurs inclinés devant lui.
Ah,
oui, je l'aime. Maintenant, décidez ce que vous allez faire. Oui, je l'aime. Il a ce qui m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur mes doigts. Pouvez-vous prendre votre décision pour Christ? Pas une décision exactement. Videz-vous simplement de vous-même. Seigneur, je ne suis pas bon. Il n'y a rien de bon en moi. Fais-moi oublier tout ce que j'ai jamais su. Maintenant, viens, Seigneur Jésus. Ne laisse pas ceci me passer par-dessus la tête. Que je le reçoive et que je sois rempli de ton esprit, Seigneur. À partir de ce jour, que je sois entièrement à toi. Priez simplement maintenant, juste une petite prière à Dieu. Simplement cette prière, enfants et tous.
Toi,
reprenez-vous simplement dans votre cœur.
Écoute ma prière.
Qui vous êtes complètement vidé de vous-même devant Dieu, être résolu à ce que rien ne vous arrête plus, vous ne confesserez plus jamais une capacité quelconque. Et vous désirez trancher cela nettement, clairement et véritablement avec Dieu. Le baptistère est rempli d'eau, prêt pour les baptêmes. Que les femmes aillent à ma droite et les hommes à ma gauche. Dans un petit moment, ce sera le service de baptême. Ceux qui sont complètement vidés, qui sont prêts à ne pas croire ce que les pasteurs disent, ce que les ecclésiastiques disent, ce que les dénominations disent, mais qui prendront le chemin du Seigneur, qui croiront le « ainsi dit le Seigneur ». Venez maintenant. Et donc cela vivra. Il sera les femmes par ici et les hommes par là. C'est votre appel à l'homme.
Many
combien de femmes ici ce matin? Je dis ceci au nom du Seigneur Jésus. Combien d'entre vous sont honteuses de ces cheveux courts que vous portez et désirent que Dieu, par sa grâce, les fasse repousser? Dieu vous bénisse. Combien parmi vous, hommes, êtes honteux de laisser vos femmes fumer des cigarettes et porter des pantalons qui en réalité vous appartiennent? Et la Bible dit, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Savez-vous que Dieu ne peut pas changer? Il ne peut pas changer. Il a une seule nature, c'est la sainteté.
Amen.
Il ne peut pas changer. Si vous ne devenez pas comme lui, vous ne le verrez pas. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Et si porter des pantalons rend Dieu malade de l'estomac et le fait vomir, il en est malade et que c'est une abomination, une corruption. Si vous avez un esprit comme cela en vous, comment allez-vous pouvoir une fois entrer au ciel? Comment allez-vous pouvoir entrer au ciel avec des cheveux courts alors que Dieu a dit « C'est une honte pour une femme de se couper les cheveux. » Elle renie les principes même d'une épouse. Dieu ne change pas. C'est sa parole, ami. Vous feriez mieux d'écouter. Et vous, hommes, qui laissez vos femmes faire cela, n'avez-vous pas honte de vous-même? N'avez-vous pas honte? Ne soyez pas comme la femme du président du pays. Soyez comme Dieu.
Amen.
Videz-vous complètement de cette tendance moderne du monde pour que Christ puisse se déverser lui-même en vous et que vous puissiez vraiment être remplis du Saint-Esprit. Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas le faire. C'est contre ses principes. Il devrait aller contre sa parole. Et cela, il ne le fera pas. Et il ne le fera pas aussi longtemps que vous n'adhérez pas à sa parole. Vous devez venir. Nous devons venir à ceci avant que quoi que ce soit d'autre puisse être fait. Vous savez cela, chacun d'entre vous est conscient de cela. Combien croit cela? Levez votre main. C'est certain, vous le croyez. Maintenant, faisons quelque chose à ce sujet. Oh Dieu, aie pitié de nous. Combien nous avons besoin de lui. Nous voici, nous tous ensemble maintenant. Souvenez-vous maintenant, au jugement. Si je devrais me tenir, et cela peut être avant cette nuit, et affronter chaque parole que j'ai dite. Voyez, je devrais l'affronter. Maintenant, souvenez-vous que cette iniquité n'est pas sur mes mains. Ce n'est pas sur ma conscience. Ce n'est pas sur mon âme. Ce n'est pas sur Dieu. Si vous tenez dans ces conditions-là et que vous ne vous sentez pas encore condamné, qu'allez-vous faire? Vous savez alors que Dieu ne traite pas avec vous. Vous savez que vous avez dépassé cela. Voyez, vous avez dépassé cela. Vous pouvez être tous les plus religieux. Vous pouvez appartenir à des églises et ainsi de suite. Mais vous avez dépassé cela. La parole de Dieu s'enfonce à l'intérieur et fait sortir la personne. C'est la chose qui les ramène. Voyez, donc c'est la parole. Je défie tout pasteur, toute personne, où que ce soit, de nier cela, contrairement à la parole de Dieu. C'est juste, il n'en est pas ainsi, voyez. Soyons donc de vrais chrétiens. Même nous qui essayons, ceux qui essayent, nous avons besoin d'être abattus et lessivés. Oui, monsieur, nous avons tous besoin de cela. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, prends-moi et façonne-moi. J'ai l'intention, après cette semaine, de me placer devant Dieu pour découvrir ce qu'il faut faire ensuite. Oh Dieu, prends-moi tout en ce qui me concerne, qui n'est pas bon, et il y en a beaucoup. Oh Dieu, coupe-le, c'est ma prière ce matin. Circoncis mon cœur, mes oreilles, mon être. Fais de moi, Seigneur, fais de moi quelque chose que ce qu'il veut que je sois. C'est ma prière. Quelle que soit la chose dont j'ai besoin, si c'est d'être émondé, alors émonde-moi, Seigneur. Montre-moi dans la parole, dis-moi, j'irai le faire, que le Seigneur le dise, et je suis prêt maintenant même à en tenir compte. Quoi que ce soit que la parole de Dieu dise, c'est cela que je veux être. Je veux être un chrétien dans la parole de Dieu, reconnaissant que toute parole d'homme est un mensonge et que celle de Dieu est vraie. Est-ce que cela ne serait pas la tendance de l'heure? Est-ce que cela ne le serait pas? C'est de cette manière que vous le croyez? Vous cherchez l'endroit pour le baptême, fils? Oui, derrière, par ici, frère. N'attendez pas. Très bien, de ce côté-ci. Beaucoup d'entre vous devraient venir, hommes et femmes, qui sont des croyants. Confessons leurs péchés pour être baptisés au nom de Jésus-Christ. De ce côté-ci, frère. Au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de leurs péchés. Elles seront remplies du Saint-Esprit. Maintenant, à vous qui êtes catholiques ici, voilà ce qu'est la rémission des péchés. Vous dites que l'Église a le pouvoir de remettre les péchés. Comment l'Église a-t-elle remis les péchés? Dieu, Jésus a dit effectivement à l'Église, à quiconque vous remettez les péchés, ils seront remis. À quiconque vous les retiendrez, ils seront retenus. Comment est-ce qu'au début, ils remettaient les péchés de l'Église primitive, les appelaient à la repentance et les baptisaient au nom de Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés? Pas dans un confessionnal, non, vraiment. Mais ils se repentaient devant Dieu. Dans leur cœur, lorsqu'ils se tenaient là, ils croyaient, et tous ceux qui croyaient étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Vous l'aimez? Maintenant, levons-nous. Maintenant, il y aura beaucoup qui voudront attendre le service de baptême. Est-ce que d'autres désirent venir? Est-ce que d'autres ont cru? Venez. D'un côté ou de l'autre, les hommes à gauche, à droite les femmes. Croyez au Seigneur Jésus de tout votre cœur, avec tout ce qui est en vous. Maintenant, inclinons nos têtes ensemble. Pendant que nous répétons ensemble cette prière modèle, comme je me sens très étrangement conduit à le faire juste maintenant, alors que nous inclinons nos têtes, priez avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, gardons nos têtes inclinées, et je vais demander à Frère Neville de venir et de dire la bénédiction, de dire ce qui est sur son cœur, puis de faire les annonces au sujet du service de baptême qui est en train de se préparer maintenant. Dieu vous bénisse, c'est ma prière. Je prierai pour vous, priez pour moi. J'ai vraiment besoin de vos prières.